L'été est là. Le retour de Boulevard. La ride parfaite pour retourner à la maison.
Boulevard 102.1.
Puis on vient d'en avoir une pas pire avec Tom Gauthier qui vous envoie les meilleures séquences musicales pour vous aider à finir cette journée de travail-là et où vous accompagner dans vos vacances. Tom Gauthier est toujours en place en studio.
Je suis là, j'ai gâté les auditeurs. On s'est parlé où que la pluie était dans la dernière heure. C'est un peu partout sur Québec. Il y en a qui marchaient, qui sont retournés à la maison ben trempe.
Oh, mais là, c'est fini. En tout cas, du moins, dans le secteur de Le Bourgneuf, l'averse qui était plutôt genre une chaudière qu'on s'est fait déverser sa tête est passée. Et peut-être ailleurs, 418-971-1021. Il pleut-tu par chez vous? À Val-Bélair, à peine quelques gouttes et le tout s'est arrêté aussitôt. Stéphane, il n'y en a pas eu sur la tête, c'est ça qu'on comprend. Jeff Fortin, lui, était bien à l'abri dans les murs de la station.
Bien
en
sûr.
Train de préparer l'émission. À mes côtés, Jeff Fortin, on est content de t'avoir avec nous.
Merci. Je me suis trempé à matin, par exemple.
En courant?
Ah non, j'avais une petite rencontre au patro Charlebourg, donc dans le stationnement, entre le stationnement puis le patro. C'est comme là qu'il est décidé de tomber le maximum depuis, je pense.
Au moment où tu étais pas dans l'habitacle d'une voiture voyage.
Je suis arrivé tout trempé, mais c'était bien drôle.
Tu faisais quoi au patro de Charlebourg?
Je suis allé, j'organise un événement de financement en collaboration avec le patro le 6 septembre prochain pour le fonds philanthropique que j'ai créé pour mon amie Catherine Guillet, qui est décédée.
C'est vrai. Peux-tu nous en parler un peu? Comment tu as décidé de faire ça? Est-ce que ça a été compliqué de créer un fonds philanthropique?
Non, je fais affaire avec la Fondation Québec Philanthrope. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Dans le sens que eux offrent là, justement l'accompagnement là, pour la
pour
création.
Démarrer ça.
En plein ça, pour démarrer ça. Ça prend un montant pour le démarrer. Ça prend un montant de 10 000 $.
Okay.
Moi, j'ai vendu ma maison, fait que j'avais ce montant disponible-là. Fait que j'ai décidé de l'investir pour donner à des organismes qui vont travailler avec les gens qui sont atteints du cancer ou en prévention du suicide.
Puis, admettons, Jeff, là, que quelqu'un t'écoute en ce moment puis veut comprendre c'est quoi un fonds philanthropique qui se demande, c'est-tu juste des sous dans une enveloppes qui seront redistribuées. Est-ce que tu es capable d'expliquer aux gens?
Oui, ben, c'est un peu ça, dans le fond. Le but du fonds philanthropique, c'est de prendre de l'argent qui va provenir de dons de gens ou même de toi. T'sais, moi, en mettant 10 000 $, c'est sûr qu'il y a des intérêts chaque année qui sont engendrés puis que je peux redistribuer à des organismes. Et puis, mais le fait de faire affaire avec Québec Philanthrope est vraiment trippant parce que moi, j'ai déjà vécu l'autre côté de la médaille quand je travaillais dans les patros. C'est que les organismes communautaires, à chaque période à chaque fois, un an dans l'année, c'est-à-dire au mois d'octobre.
Toujours au mois d'octobre?
Toujours au mois
d'octobre. Parce que c'est le début de l'année fiscale?
Oui, je pense que oui. Okay. Effectue une demande de financement à l'organisme Québec Philanthrope. Et là, tous les philanthropes de Québec Philanthrope, on est quoi, au-dessus de 300, là, ça gère au-dessus de 25 millions d'argent, Québec Philanthrope.
Ça, c'est des indépendants et des entreprises? Toi, tu pourrais être considéré comme indépendant?
C'est des indépendants, c'est pas d'entreprise, c'est des indépendants.
Okay. Mais toi, mettons, j'ai une shop de fer à cheval. J'ai aucune idée pourquoi c'est ça qui m'a passé par la tête.
Mais c'est pas grave.
Je décide d'investir en philanthropie. C'est pas au nom de mon entreprise que
non,
je vais
ça
faire.
Ça va être en mon nom personnel. Okay. Exactement. Et puis, donc là, moi, en m'étant inscrit pour aider les organismes qui travaillent avec des gens qui ont le cancer en prévention du suicide, ben Québec Philanthrope va me transférer les demandes de financement de ces organismes-là.
Tu vas choisir où est-ce que tu
investis. Puis moi, je vais avoir à choisir. L'idée est venue du fait que... puis là, c'est pour ça que je l'ai nommé le fonds philanthropique Catherine Guillet. Bon, à la mémoire de mon amie qui est décédée, elle disait toujours qu'elle voulait être immortelle. Donc, c'est un moyen pour moi de la rendre immortelle. Puis, l'autre idée qui est venue, c'est dans le temps des fêtes. Bien, dans le temps des fêtes, un peu avant la période des fêtes, je suis allé faire pendant une journée les paniers de Noël au patro Charlebourg.
Oui.
Et puis, j'avais dit à mes enfants, ils étaient en grève scolaire, venez donc, papa, faire les paniers de Noël. Mais
Des ados, pas toujours facile de se dire, tiens, je vais aller faire des paniers pendant mes congés. Là.
C'est ça, ils ont préféré rester devant leur PlayStation. C'est bien correct, là, je les ai pas achetés avec ça. Mais mon amie Catherine, qui était, la maladie avait pris le dessus, qui était pas en forme, est venue toute la journée avec moi. Puis un sourire resplendissant, une énergie débordante.
Puis elle était malade.
C'était très, 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 très difficile. T'sais, quelques jours après, elle a attrapé la COVID. Puis là, ça a déboulé malheureusement du mauvais sens. Puis là, je me disais, comment je pourrais faire pour faire en sorte que mes enfants aient cette conscience-là?
Mm. qu'ils choisissent peut-être un peu d'heures de bénévolat
exactement
dans leur année versus d'autres activités.
En plein ça. Et là, j'ai pensé, parce que je connaissais ça, j'ai dit, ah, quand j'ai dit, je pourrais faire affaire avec Québec Philanthrope. Parce que le but, c'est que moi, avec mes enfants, on va lire les demandes de financement. Ils vont sélectionner avec moi les organismes. Mm-hmm. Puis on va aller porter les chèques et on va aller visiter ces organismes.
Pour les conscientiser.
Pour
une
les
fois
conscientiser.
Qu'ils sont devant,
qu'ils
voient, ils comprennent.
Exactement.
Puis c'est vrai, tu sais, tu dis, je les ai pas obligés cette fois-là. Puis il y a peut-être des gens qui écoutent et disent, ah, moi, j'aurais obligé mes enfants. Ouais. Mais tu veux pas les écœurer.
Non.
Tu veux que ça vienne d'un coin dans leur tête ou dans leur cœur qui est motivé, qui est motivant. Parce que si tes écœurs, finalement, ils vont peut-être voir ça comme une tâche.
C'est ça, ouais. Puis tu sais, moi, je le dis toujours, redonner à la communauté comme ça, il faut que ça vienne de souhait. Ouais. Tu peux pas forcer le monde à
une
le
fois
faire.
Sur place, tu as le goût que oui. les gens qui donnent du temps le fassent avec justement.
Ben, le fassent justement avec sourire et tout ça. Ben oui, tu sais, l'exemple de mon amie Catherine est frappant. Là, moi, je savais que la maladie était en train de prendre le dessus, qu'elle en arrachait. Puis elle m'avait dit, hey, si on fait des paniers de Noël, fais-moi signe. J'ai dit, bon, ben, je vais y faire signe, mais en me disant, écoute, elle va me dire, hey,
tu fais le pas aujourd'hui. Là?
Je m'excuse. Ouais. Là, je t'avais dit ça, mais là, je peux pas. T'sais. Puis elle m'a dit, non, le jour-là, ça va me faire du bien.
Mais c'est un exemple frappant. Oui. Je suis sûr que oui, ça lui a fait du bien. Puis tu sais, dans le bénévolat, il y a tellement de types de bénévolat. Parce que ça fait des années que j'en fais. Puis moi, ça a été quelque chose qui est entré dans ma vie par le programme d'études internationales au secondaire. On avait des heures obligatoires.
C'est exceptionnel pour ça.
C'est fou. Il y a plein d'affaires qu'on développe. Puis j'ai aucun regret. Au contraire, j'encourage même des gens à s'inscrire à ce programme-là, qui n'est pas pour une élite là, intellectuelle.
Non,
là.
Non, non, non.
C'est juste des valeurs différentes qui sont exploitées. Puis un genre de consensus à aller peut-être, oui, dans des matières un peu plus fortes. Bon. Mais il y avait une portion qui était vraiment liée au bénévolat. Comme tu avais un nombre de livres à lire par année, il y en a bien qui le lisaient en diagonale, ben des heures de bénévolat, c'est un peu plus dur de faire semblant.
De faire en diagonale, oui.
Puis justement, les enseignants nous demandaient de trouver quelque chose qui allait nous motiver. Puis tu sais, la première année, tu commences, tu dis, ah, je vais faire le 24 heures du Mont-Saint-Anne. Fait que là, c'est correct, ça comptait secondaire 1 comme bénévolat. Ça veut dire que tu dévales des pistes, des pentes pendant X nombre d'heures, tu ramasses de l'argent en conséquence. Puis plus ça avance, plus vraiment tu t'en vas dans des endroits où ils en ont besoin parce que tu viens à te demander, tu fais-tu le bon bénévolat? Puis c'est pas mauvais, le 24 heures du Mont-Saint-Anne, mais tu comprendras qu'entre ça, Nez Rouge, expérience extraordinaire qui reste dans ma vie, puis directement aller avec des personnes en situation d'itinérance, mais des fois, ça te prend un peu plus d'intelligence émotionnelle ou encore de conscientisation pour
clairement
le faire. Puis je trouvais que tout le monde avait changé, tous les jeunes, tous mes collègues de classe, là, de secondaire 1 à secondaire 5, c'était rendu peut-être un petit peu plus près des gens ou d'une réalité différente. Il y avait un malaise qui avait été cassé, puis il y avait une envie d'y aller.
Oui.
Puis quand je parle à, entre autres, Philippe Dubois, là, tu sais, on le reçoit souvent ici à Boulevard 102.1, le prof en communication politique à l'ENAP, quand on avait pris un verre ensemble pour l'amener comme collaborateur, il m'avait dit « ça me manque ». Tu sais, c'était pas juste un « j'ai aimé ça, faire ça ». C'était « ça me manque », puis on dirait « j'oublie
clairement
de donner du temps ». Fait que c'est vrai, tu sais, pour amener tes fils à intégrer ça, faut pas se le forcer non plus.
Exactement, fait que c'est un moyen, parce que tu sais, ça va être quand même un moyen qui va être interactif, qui va être positif pour eux. Donc, c'est un moyen de les conscientiser. Parce que tu sais, derrière chaque histoire, tu sais, je vais le dire comme ça, là, derrière chaque itinérant, derrière chaque personne qui vit une problématique, il y a une histoire.
Oui, puis une histoire beaucoup moins de préjugés qu'on pense. Parce qu'une
vraiment
fois, j'avais fait un avec Éric de l'Aubrivière, m'avait laissé entrer il y a peut-être 6 ans, avant la pandémie, dans les ports de l'Aubrivière, puis j'avais fait un vox pop avec les gens, puis ce qui ressortait, c'était pas des problématiques de consommation de drogue, là. C'était des séparations qui a vidé les poches de... C'était une maladie mal assurée qui
vraiment
a amené à une pauvreté financière. Oui, une série de décisions qui sont malheureusement mauvaises parce que t'as pas eu d'éducation financière.
Exactement.
Ce qui manque quand même dans nos écoles aussi.
Clairement.
Puis t'avais... Mais il y avait beaucoup de maladies puis beaucoup de séparations.
Oui.
Ou perte d'emploi. Puis dans le temps où peut-être que la pénurie de main-d'œuvre n'était pas aussi sévère qu'en ce moment, fait que c'était moins facile de retrouver un emploi. L'accumulation de sa carte de crédit. Tu sais, vois-tu, là, il y a des gens qui vont devoir se réaviser parce qu'à partir de demain, on va devoir payer 4,5 sur notre carte de crédit mensuellement au lieu de 4. Puis on veut se rendre jusqu'à 5 du côté du gouvernement du Québec pour avoir une conscientisation puis aussi faire en sorte que le taux d'endettement des Québécois baisse. Mais c'est, pour certaines personnes, c'est de l'argent. Ça fait une différence. Un objet accumule quelques exemples comme ça. Ben, ça peut mener à... Quand on apprend qu'un Québécois sur deux vit de paye en paye, tu te dis, il suffit d'une bad luck, d'une réparation à faire sa voiture, d'un accident mal assuré que
t'es fait.
Ton budget, il passe. Puis si tu as des enfants, ben, tu peux pas arrêter de les faire manger pareil. Ouais. Les banques alimentaires, on le voit, la demande d'export. Puis c'est pas le profil qu'on avait il y a plusieurs années.
Du tout. Du tout, du tout. Et juste en étirant, Simon nous le disait, Simon Côté de la Fondation Aube-Rivière hier, qui disait 75% des gens, c'est la première fois qui demande le service de l'Aube-Rivière. Moi, c'est la même chose. Je l'ai vu. Il y a eu un avant et après COVID au niveau de la banque alimentaire au Patro-Charlebourg que je gérais. Incroyable. Tu sais comment j'ai vu une différence des gens qui avaient un emploi, des gens qui avaient une famille, mais qui n'arrivaient plus. Puis qui devaient venir demander de l'aide.
Travailler.
Mais continuer de travailler. Fait qu'imagine le désespoir de ces gens-là.
Incroyable.
De dire, hey, moi, chaque matin, je me lève. Moi, je fais l'effort à chaque matin. Je vais offrir le meilleur à mes enfants, mais je suis même pas capable de mettre trois repas sur la table.
Ah non, c'est ouf. C'est déchirant. Puis,
pourquoi? Parce que le coût du loyer a augmenté, parce que le coût des transports a augmenté, parce que le coût de l'épicerie a augmenté. T'sais.
Peut-être que ton coussin, tu n'as plus non plus.
Mais non, t'sais, le coût des vêtements pour les enfants a augmenté. Là, tu veux pas trop privé. Ah ouais. Tu sais, des fois, ça paraît niaiseux, là. J'avais ces discussions-là avec des profs d'éducation physique, parce que je m'impliquais beaucoup à l'école primaire de mes enfants. Puis ils disaient, on va faire passer le volleyball de 60 à 80 piastres. Ouais, OK, parfait, tu vas perdre 8 en fait.
Ben, juste pour la différence.
Ben, j'ai dit, ben oui, 20 piastres. Il y en a plein qui ne l'ont pas,
c'est
20 piastres.
C'est rien, mais ça paraît. Puis ils ont grugé leur budget pour. Tu sais, on niaisait avec un collègue cette semaine qui, lui, ben, ses enfants sont bien, bien investis dans leur hockey. C'est de l'argent, là.
Mais
juste hein. Ça. Hey, c'est une question qui vient de me venir en tête. 88-971-1021 ou encore sur Twitch. 88-971-1021, on dirait que je l'ai dit vite. Mais c'est quoi la bad luck financière qui, sans vous mettre à la rue, comme l'expression le dit, a été difficile à avaler cette année? Avez-vous vécu une bad luck financière? C'est-tu l'auto? C'est-tu une rénovation? Est-ce qu'il y a eu un bris d'aqueduc?
C'est ça. Je m'attendais pas à ce que mes freins aient besoin de se faire changer.
Sur ta voiture?
Fait que quand tu t'en vas juste faire un changement de pneus, mais finalement, ça te coûte 1700$ de freins, tu fais tabarnouche, OK, attends une minute.
Plus tes pneus?
Ben, c'est ça.
Tu t'es remplacé.
J'avais prévu qu'il fallait que je m'achète des nouveaux pneus, mais pas des nouveaux freins.
Ben, puis là, c'est essentiel, on s'en
rend compte. Ben, t'as pas le choix. Tu sais, bon, ben, c'est beau, c'est correct, 1700, mais 1700, c'est quand même un bon montant.
Sur Twitch ou encore au 88-971-1021. Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça développer avec toi là, dans les prochains mois, à savoir c'est quoi dans les paniers de Noël que ça nécessite et autres, parce que je me souviens d'un discours de mon père quand j'étais jeune. La première fois qu'il nous l'avait fait, on avait resté bête un peu, on était jeune. Tu sais, tu dis à un enfant, ça va à l'épicerie, puis mettez ce que vous voulez dans le panier. C'est comme le plus beau jour de la vie. Là.
Ben oui.
Entre 3-4 multigrains, quand tu as la possibilité de mettre un fruiteau long là, dans ton panier. Puis à la toute fin, il nous avait dit, c'est pas pour vous. C'était pour les paniers de Noël.
Ah, ça,
parce qu'ils savaient qu'on allait mettre, mettons, des trucs qui étaient populaires à l'école, les Doctor Who dans le temps, des trucs qu'on avait le goût, puis qui allaient nous donner un petit trip. Puis c'était pas toute la face qu'on a fait. Je vais m'en souvenir longtemps, puis mes deux parents étaient beaucoup
c'est
comme
une belle
ça.
Éducation.
Mais oui, sauf que c'est ça, la conscience de dire des brosses à dents aussi là-dedans. C'est quoi les produits qui coûtent cher, dont on oublie de mettre dans des paniers? Ça, on en reparlera ensemble. Puis il y a un groupe de gars, puis je les salue. Je dirais pas leur nom parce que je sais même pas si vous voulez que j'en parle à la radio. De 30 ans, de mon âge de Québec. Une gang de gars, des jeunes qui travaillent, qui ont leur emploi régulier, ils n'ont pas encore de famille et tout. Mais ils ont décidé, puis c'est un des amis qui a commencé à parler de cette façon de faire-là, puis ils ont comme tous adhéré, je trouve ça incroyable, ils ont un contrat. Mais ils ont décidé de mettre 15$ par mois dans un compte commun.
OK.
OK, ils font des virements. Il faut que tu aies confiance.
À gang.
À gang. Ils sont 8. 15$ par mois chaque.
OK.
Puis ils vont accumuler une somme comme ça, puis se sont dit, dans 5 ans, on se rassoit, puis on regarde où est-ce qu'on donne.
C'est correct.
Hey, je trouvais ça
l'idée malade.
Extraordinaire.
Ben oui.
Fait qu'ils se sont créé un genre de comité, là.
Ouais,
de petits gars de 30 qui vont avoir 35, qui, à coût de 15$, qui s'en rendent pas trop compte dans les dépenses qu'ils ont, eux, en ce moment.
C'est vraiment cool et généreux.
Hey! Puis à la fin de 5 ans, ils ont une belle cagnotte, puis ils vont la remettre à un organisme de leur choix ou encore le réinvestir parce qu'il y a quelqu'un qui est très fort en finance puis en investissement pour que ça devienne un plus grand montant encore, puis ils vont continuer comme ça. Je trouve ça brillant.
Brillant. Très brillant. Puis quand tu parlais de produits qui coûtent cher, là, il y a l'organisme vide ta sacoche, puis on connaît la personne, la fondatrice, puis directrice général, c'est Marie-Annick Chouari qui s'était présentée pour la CAQ dans Jean Talon, qui est la fondatrice justement de ça. Puis c'est tous des produits de cosmétiques pour les femmes défavorisées.
Hey.
Puis moi, quand j'avais tissé des liens avec le patron Charlebourg, fait que quand les gens viennent au panier de Noël, ben les femmes repartent aussi avec des produits
avec
pour se mettre belle pour Noël.
Puis pas juste ça. T'as Noël, là, mais ça va plus loin. Moi, je me souviens de... C'était pas un débat, c'était une conversation que j'avais avec Marceau quand est venu le temps de financer les frais dentaires.
Oui.
Pour, au fédéral, là. Mm-hmm. Ça a été une politique mise en place par le gouvernement Trudeau. Bon, on peut bien dire qu'il fait pas de job sur des affaires.
Non.
Mais moi, cette politique-là, je trouvais qu'elle faisait l'affaire.
Tellement d'accord avec toi.
Parce que le sourire, la dentition, ça va avec l'élocution.
Mm-hmm.
Ça va avec une confiance en soi.
Et
ça
oui.
va avec une capacité d'être embauché ou non. Posez-vous la question. Là. Qu'on se dise plus haute que les autres, peu importe. Quelqu'un qui arrive avec les dents toutes sales, toutes croches,
oui.
ou encore qui a dû se faire arracher les dents parce qu'il n'a pas la capacité mm-hmm. d'avoir des soins dentaires, puis crime, ça coûte cher. Puis pour lui ou elle, la décision la moins chère, c'est de te faire arracher les dents. Puis t'arrives, tu veux un emploi. Tu sais, t'as beaucoup de paraître, là. Veux pas
ben
dans
oui.
la vie, là. Puis, il y en a qui n'ont pas cet accès-là. Tu parles à des jeunes qui, peut-être, n'ont pas eu le contexte familial où on leur a dit « faut que tu brosses tes dents mm-hmm. trois fois par jour ».
Exactement.
Qui ont de la nourriture comme du Pepsi sur la table, pas parce qu'on souhaite, mais ça coûte moins cher.
Ben oui.
Puis, t'as pas ces possibilités-là d'aller chez le dentiste, puis c'est une santé au-delà de, tu sais, ça va faire en sorte que tu vas être peut-être à l'hôpital pour des raisons X, ça va te coûter un traitement de canal parce que tu peux pas rester là-dedans, tu peux... Puis moi, je disais, ça vient avec tellement de pain, là, pas juste une histoire de nettoyage une fois de temps en temps, puis l'argent dans mes impôts qui est pris pour ça, moi, ça me dérange pas.
Moi
il y a
non plus.
Plein de choix gouvernementaux qui font pas mon affaire par rapport à des impôts.
Mm-hmm.
Mais ça, j'étais prête à le mettre. C'était un 20$, un 40$ par année, peu importe. Mettez-le là, je trouve cette belle politique, puis ça va avec le maquillage.
Ben oui.
Une femme qui peut avoir une confiance en elle pour aller porter un curriculum vitae,
exact.
Ou une confiance en elle pour faire sa journée. Puis oui, c'est un cache-cerne, puis ça paraît peut-être stupide, mais si ça y donne ça de plus,
ben, ça
pour
sera
se reprendre en main, hey, pensez-y, vous perdez 5 livres, vous perdez 10 livres, là.
Puis on est content.
Hey, on se sent-tu bien?
Ben oui, on se dit, je tombe bien beau aujourd'hui.
Puis là, je vais pas faire de préjugés
non,
sur
non,
le
mais
poids.
T'as entièrement raison.
Je m'en vais m'entraîner aux chutes Montmorency. Le lendemain, je suis comme, ça, je suis plus svelte. C'est pas vrai, là. Mais je me lève avec une confiance.
Il y a un bénévole avec qui j'ai travaillé dans le tournoi de baseball de la Fondation Bob Bissonnette que c'était ça. Il y avait une séparation de ces deux palettes.
Okay.
Puis il dit, moi, j'ai jamais souri de ma vie. T'sais, il dit, parce qu'il dit, je cachais toujours mes dents.
Mm.
Puis là, ben il y a un de ses fils qui a eu besoin de l'orthodontie. Puis il s'est dit, hey, là, fuck, moi aussi, c'est à mon tour aussi. Puis là, il était tout heureux parce qu'il dit « C'est la première année que je peux sourire sur des photos. »
Hey, ça me fend le cœur. Tu sais,
le gars, il a quoi, une mi-quarantaine?
C'est sûr que c'est un beau gars pareil. C'est sûr que nous, on s'en rendait pas compte, mais lui, ça prenait de la place dans sa tête.
Gars de 6'2", super beau bonhomme. T'sais, un gars hyper intelligent, un ingénieur.
C'est superficiel, c'est une craque entre les dents. T'sais. Mm-hmm. Fait qu'imagines-tu une dent pourrie?
Ah oui, exactement. Puis il dit « Je suis content, c'est la première fois de ma vie je peux sourire sur des photos. »
T'imagines? Hey, ça me vient, ça me touche, moi. Ces affaires-là,
moi
ça
aussi.
Me touche parce que ça change l'humain de A à Z. Mais tu sais, on pourrait en parler tellement longtemps. Puis ces gars-là, moi, ils m'impressionnent. Je les applaudis de penser à ça à 30 ans, au même titre
ben
que
oui.
tu commences à économiser jeune, puis
même
tu te réveilles
à
18 ans. Puis, mais tu sais, ça se peut, là, ça peut être 25$ pour vous, mais si vous avez une gang de gars, une gang de filles, une gang d'amis, puis vous vous dites, hey, nous aussi, on a goût de faire ça, ben, j'en parle pour cette raison-là. Si jamais ça peut inspirer, je les trouve très hot.
Il n'y a jamais de petits dons.
Non, c'est ça. Puis là, les gens nous ont écrit par rapport au bad luck financier qu'ils ont vécu cette année. Pas qu'ils les ont mis dans la rue, mais que peut-être c'était pas prévu. Toi, c'était tes freins sur ta voiture. Il y a quelqu'un qui dit un mariage, puis après ça, il nous renvoie, et j'économise pour la prochaine bad luck, la séparation.
Ouais.
C'est une fameuse joke, là.
Il y a quelqu'un qui nous a écrit « Mon imprévu, la maladie, en effet. » Tu sais, quand ils sont en arrêt de travail, 70% de ton salaire. Tu sais, on parle de gens qui vivent de paye en paye, là, quand t'es à 70% de ton salaire.
Ça se peut que tu gagnes pas 120 000 par année.
Non, c'est ça. Fait que ça fait très mal, en effet. Puis on lui souhaite prompt rétablissement.
Absolument. Après ça, t'as des gens qui parlent des soins vétérinaires.
Oui.
Moi, quand je suis allée pour juste être ausculté un chien et que ça a coûté 1 400 $, j'ai compris pourquoi il y avait des assurances pour les animaux. Quelqu'un qui n'est pas en accord, quelqu'un qui dit pas sûr, c'est un peu un choix personnel, c'est aussi de ne pas mettre de l'argent sur tes dents, mais plutôt peut-être sur ton cellulaire, ton alcool, la SQDC. Pour... Tu sais, ça, on est un peu dans le préjugé, on ne sait pas ce que les gens font avec ça.
Mm-hmm.
Puis encore là, moi, je me dis, bof. écoutez, il y a tellement d'impôts qu'on pourrait revoir, qu'on pourrait rafistoler. Puis si ça va là, ben j'aime peut-être mieux ça que, mettons, un financement gouvernemental québécois pour les lions électriques. Je dis ça, je dis rien. On en parle à l'actualité tantôt. Je dis ça de même.
Puis le DG de Lions électriques, ça va bien, lui, par exemple?
Il paraît que son salaire augmente.
Oui, c'est ça. La compagnie va mal, mais lui, ça va bien. Je comprends pas.
Il y a quelqu'un qui dit « bad luck, convalescence à cause d'une opération, donc c'est pas facile. En plus, mon conjoint a changé de job. » Tu sais, quand tout arrive en même temps.
Crime, oui.
Quelqu'un qui parle d'un accident de voiture aussi où ça n'a pas été facile. Puis la SAQ, c'est vrai, ça, c'est long avant que tu recommences à avoir tes chèques de compensation. Là. Des fois, ça peut prendre un mois et demi. Tu as commencé à remplir ta carte de crédit. Là. OK, non, on vous comprend. Continuez de nous le dire, on le fait en toute gaieté.
Une autre personne qui nous dit « je sais que j'ai pour un 20 000 d'orthodontie qui s'en vient ». Fait que, tu sais, ça, faut que tu le prévois. Tu peux le prévoir parce que l'orthodontiste te le dit, mais ça reste une bad luck financière quand même.
Ça reste que tu les aimes, tes enfants. Moi, j'ai toujours dit, j'ai trois cadeaux spectaculaires de mes parents. Mes trois cadeaux préférés. Le premier, mes sœurs. Le deuxième, mes études. Puis le troisième, mes dents.
Ben, moi, vois-tu, les gars vont avoir chacun eu les dents. Puis là, Eliott s'en va vers le cégep. Mais hey, tu m'as déjà parlé de me payer les études supérieures. Je suis désolé, j'ai investi dans tes dents.
Désolé, ça passe ailleurs.
Prêt et bourse, mon chum, je m'excuse.
Ça va être le travail et les prêts et bourses. Hey, vous êtes dans à Boulevard 102.1. Dans le retour, je veux dire, dans Gravel, dans le retour, mais je ne veux pas mêler le monde. Mais c'est vrai, Denis revient dans deux semaines. Yannick était là la semaine passée. Nous, on est avec vous jusqu'à demain. Tom Gauthier, Jeff Fortin. Mon nom, c'est Pascal CV. Si vous voulez nous contacter, il y a le texto, il y a le Twitch. On est avec vous, on est bien content de l'être. Puis en plus, ben, on a un petit coup de cœur aujourd'hui côté entrevue. Pas que le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais un David Rioux, là, correspondant à l'étranger pour Radio-Canada Sport, qui est en plein dans les Olympiques de Paris, qui a des anecdotes des potins, qui côtoie les athlètes, mais qui côtoie aussi les Parisiens sur place, puis les autres pays. Ça, on a hâte, puis pas à peu près.
Très
on a très hâte d'y parler. My Chemical Romance, welcome to the Black Parade. On part ça. Merci de nous avoir choisis. Puis on est là, on le dit souvent, on est content d'être là. Mais c'est sincère. C'est vraiment sincère.
Même avec le prix du gaz, le retour de Boulevard.
102.1.
Ouais, mais même si vous aviez la Camaro, ça roulerait un peu plus difficilement sur les réseaux routiers. Habituellement, à 3h26, 15h26, depuis le début des vacances de la construction, c'est très relax sur les autoroutes. Mais là, on a des bons accidents à signaler. Entre autres, sur Laurentienne Nord, il y a un accident dans la voie de droite, Tom?
Deux du côté de Laurentienne Nord. Premièrement, début de la sortie vers le boulevard de l'Atrium, c'est partiellement entravé en raison d'une panne. Le ministère des Transports qui est sur place, remorquage en cours. Toujours sur Laurentienne Nord, hauteur de la rue de la Fonde, voie droite bloquée. Ça, c'est un accident. Félix Leclerc, direction ouest, avant le boulevard de l'Ormière, la voie de droite qui est bloquée en raison d'une panne. La SQ, ministère des Transports, qui est sur place en ce moment. Donc, pas seulement vous dire que dans ces secteurs-là, mais c'est hyper difficile en ce moment. On est au rouge assez foncé.
OK, là, tu dis trois bouchons.
Oui, exactement.
Okay. Le premier, un accident qui se résorbe. Exact. À quel endroit?
Donc, je reprends, OK?
Mais juste clairement, là, le premier, c'est?
Laurentienne, Nord. Oui. À la hauteur de l'embranchement pour Atrium.
C'est celui qui se résorbe.
Exactement.
Le deuxième, c'est encore Laurentienne Nord, rue mais à la sortie de la Fonde.
Exactement.
Puis là, c'est bouché bien raide.
C'est bouché bien raide dans ce secteur-là.
Puis le troisième.
Puis du côté Félix Leclerc, direction ouest, avant le boulevard Lormière, la voie droite bloquée en raison d'une panne.
Si vous pouvez éviter les secteurs, c'est ce qu'on vous conseille dans le retour à boulevard 102.1. C'est du soleil qu'on a eu majoritairement ce matin. Ensuite, on a eu des épisodes de pluie. On a même eu déjà des épisodes d'orage. Et c'est ce qu'on aura ce soir et cette nuit. Côté prévision, là, orage, mesdames et messieurs. Puis on vous le dit pas à peu près. On vous dit qu'ils seront violents. Ça me fait toujours rire, ces avertissements-là, mais ça reste que vous pouvez peut-être vous baigner à l'extérieur. C'est pas qu'on vous conseille ce petit scénario-là, mais des pluies torrentielles sont attendues. Et quand on dit qu'on les conseille pas, c'est qu'il y aura éclair aussi. On vous dit qu'on est à la veille d'orages violents. Il y a de la foudre aussi qui tue et blesse des Canadiens chaque année. C'est vraiment écrit. Donc, on vous le dit. Quand le tonnerre gronde, rentrez à l'intérieur. Ça risque d'être le scénario pour ce soir. Activité nautique aussi, c'est peut-être pas la meilleure idée. Sidou, bateau, kayak,
paddleboard,
tout ça, c'est pas votre journée. Hein, attendez peut-être dans
les
prochains jours. Ben, des crues soudaines, d'accumulation d'eau sur les routes aussi, ça peut être attendu. Et de la grêle. Puis, tu sais, une bonne grêle. On nous dit une grêle de grosse taille. Je ne sais pas c'est quoi une grêle de grosse taille, mais on nous dit que
ça pince.
De grosse taille. Oui, mais même la petite est...
Même la petite a pince.
Même la petite est violente.
Tu sais, j'ai vu ça, des gros grêlons. Moi, je me souviens d'avoir vu des gros grêlons, là, gros comme un caillou.
Ouais, le plus que j'ai vu, c'est peut-être un genre de grosseur de 10 sous.
Ouais.
En circonférence.
Okay, quand même.
Mais j'ai jamais vu des balles de golf ou des choses de même, là.
Non, moi non plus, mais gros, un petit peu plus gros qu'un 10 sous, moi, dans le temps.
Mais c'est gros.
Mon oncle avait une maison à Bernier, on allait toujours se baigner là, puis à un moment donné, orage violent, on était en dedans, puis là, on voyait ça tomber, ses chars.
Tu regardes tout le temps sur le patio parce qu'ils rebondissent.
Ben oui.
Mais là, une chance. Imagine les gens qui sont dehors pendant que ça tombe. C'est ça. Pas là. Non,
il devait avoir peut-être 8 ou 9 ans, là. Une chance dans ce temps-là, toutes les chars t'as fait en fer.
Ça me pas de quoi de grêle. Eh non, mais tu sais, si tu reçois ça sur la tête, ça peut être un peu... Ou dans ton pare-brise, là. Mais il y en a qui ont connu de la grêle d'une grosseur de balle de golf.
Ah oui,
là.
Vraiment.
Fait que ça nous tente un petit peu moins. Quelle grosseur de grêle vous avez déjà vécu, mesdames et messieurs. Aux nouvelles, il y a beaucoup de choses à mentionner, là. Ça bouge. Il y en a dans le politique. Il y en a, oui, avec les Jeux olympiques. Mais il y en a aussi dans notre quotidien, Tom.
Oui, on va commencer avec un déficit du côté de la santé. Les établissements du réseau de la santé qui ont engendré un gros déficit de plus d'un milliard l'an dernier. Un imposant trou financier, faut le dire, causé en grande partie par l'embauche des agences privé. Déficit total d'un peu plus d'un milliard de dollars qui a été confirmé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça représente 2,6% du budget total du réseau. C'est un écart de 2 milliards avec l'année précédente qui avait cumulé un surplus de 1,2 milliard. Puis ces données-là s'incluent, oui, les hôpitaux, mais on parle aussi des CLSC et des CHSLD. Puis parmi les raisons qui expliquent cette situation-là, on souligne surtout le recours à la main-d'œuvre indépendante, donc infirmières, préposées, techniciens, qui a coûté plus de 600 millions en 2023-2024. Les taux horaires étaient aussi plus chers que l'an dernier. Puis dans d'autres raisons, on parle aussi là, du prix de certains médicaments, la hausse des besoins et l'inflation, bien sûr. Rappelons que le ministère de la Santé souhaite mettre fin aux agences privées en santé d'ici 2024 en région métropolitaine et d'ici 2026 partout au Québec, donc sorti un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, oui.
Ouais, et au-delà du budget, ben, ça crée des problématiques. On en entend parler depuis plusieurs mois là, sur la Côte-Nord, les problématiques de main-d'œuvre. Et là, ben, l'urgence des Escoumins et l'urgence de Forestville qui vont vivre des périodes de fermeture dans le cas des Escoumins.
Fermeture, là, dites-vous ça, là, l'urgence est fermée. Oui. Quand tu as des enfants en bas âge ou encore que tu as des parents qui sont vieillissants puis qu'il peut arriver quelque chose, là, c'est que ça demande après ça des services comme par avion et autres pour les amener ailleurs.
Exactement.
C'est sur des grandes distances. Donc là, on fermerait côté Forestville.
Côté Forestville et les Escoumins. Les Escoumins, c'est une fermeture de nuit entre 21h et 8h. Le matin à compter de ce soir. Et du côté de Forestville, ben, c'est simple, c'est une fermeture complète ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, et fermée à partir de 17h ce soir et jeudi.
On renvoie les gens dans quel coin, hein? On sait, tu sais pas, parce que dans l'article, c'était pas nécessairement précisé, mais moi, je me disais.
Oui, moi non plus, c'était pas précisé, mais on disait que c'était au moins un 150 km de distance que les gens avaient à parcourir.
Mais excuse-moi, moi, je pense juste aux ambulances, aux ambulancières aussi qui vont avoir à faire du territoire. Puis, tu sais, il faut que tu sois capable de donner les soins adéquats. Je ris jaune, là, c'est pas drôle. Jamais j'aurais cru, dans ma sainte vie, entendre qu'une urgence se ferme par pénurie de main-d'œuvre. Puis tu y penses, là, c'est fermé à telle heure et telle heure. Une urgence, ça le dit, tu sais pas quand est-ce que ça arrive.
Non, mais c'est ça, un accident d'auto peut arriver à Forestville en fin de semaine.
Mais oui, puis là, tu fais quoi? Ça va être les ambulanciers, mais sont-ils capables de faire le service en conséquence et après, ils les amènent à l'urgence?
C'est ça, il y a certaines manœuvres, j'imagine, qui ne peuvent pas être faites dans une ambulance comparativement à l'hôpital.
On va le suivre,
J'imagine, je suis convaincu.
Ben oui, c'est ça.
Autre chose en actualité, Hydro-Québec, qui a été victime d'une fraude aux fournisseurs de près d'un demi-million de dollars, selon une source bien au fait du dossier et confirmée par la Société d'État elle-même. Un fraudeur qui aurait personnifié une entreprise avec qui Hydro-Québec fait affaire pour modifier les coordonnées bancaires vers lesquelles les paiements sont dirigés. Un peu plus de 450 000 $ le manque maintenant à l'appel. Ce type de stratagème-là, c'est relativement fréquent. C'est ce qu'on dit dans le monde des affaires et des entreprises qui devraient redoubler de prudence pour s'en prémunir, là, selon des différents experts en cybersécurité. Puis en réponse aux différentes questions de la presse vendredi passé, Hydro-Québec a confirmé qu'une enquête qui avait été déclenchée sur cette situation-là. Il y a une plainte qui a été déposée aussi à la SQ.
Il y avait une genre de fraude aussi, du moins. On avait réussi à amasser des informations chez Ticketmaster. Puis en plus, il y a beaucoup de gens qui avaient leur carte de crédit qui était reliée à leur compte Ticketmaster. Puis ce qu'on avait conseillé, c'est tout simplement annuler sa carte de crédit et en recommander une autre, tellement que c'était complexe. On est rendu où avec ça?
On est rendu où? C'est que le commissaire à la protection de la vie privée du Canada qui va enquêter sur cette fuite de données-là personnelles. Je vous rappelle que c'est 560 millions de clients Ticketmaster qui ont été touchés par ça. Ce qu'on dit du côté du commissaire Philippe Dufresne, Ticketmaster détient les renseignements personnels de millions de Canadiennes et de Canadiens. L'enquête va permettre de comprendre pourquoi cette cyberattaque s'est produite et ce qui doit être fait pour remédier à cette situation-là. Je vous rappelle que la multinationale américaine estime à peu près 560 millions. On ne sait pas combien ont été touchés ici au Québec. Le bureau fédéral qui dit avoir requis au moins une plainte en lien avec l'incident ici au Canada. L'enquête qui va se diviser en deux volets. On va faire en premier, on va évaluer si Ticketmaster a enfreint la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. Puis on va aussi voir que si Ticketmaster s'est conformé aux exigences en matière de signalement des atteintes auprès de ses clients. Donc ça va être à suivre. Puis Ticketmaster, par contre, qui va offrir à ses clients de toucher un service gratuit de surveillance de l'identité pour une période d'un an pour ceux, bien sûr, qui ont été touchés là-dedans.
300 mises à pied chez Lion Électrique. Il y a 50% moins de véhicules qui ont été livrés. On en reparlera plus tard. Fermeture aussi du restaurant. Très connu, les Frères Toc.
Les Frères Toc, ah oui, c'était ça roule depuis un bout.
Oh oui, puis c'était fait défoncer une couple de fois par des voitures qui fonçaient dedans. C'est ce resto-là,
les rappelez-vous. Les gens qui rataient la sortie en sortant du lac Beauport, autrement dit, pour tourner sur le boulevard Ribourassa.
Moi non plus, j'ai jamais compris.
Écoute, je suis passé dans ce secteur-là depuis peut-être un millier de fois dans ma vie, puis je comprends pas comment tu peux être arrivé aussi vite à cet endroit-là pour dérailler.
Puis dérailler un peu en diagonale. Ouais. En tout cas, on en reparlera de ça aussi, cette fermeture-là, parce que ça a accueilli de nombreuses belles soirées. Il y a des artistes de Québec qui ont performé là, qui se sont fait connaître. Et le chef du Hamas, c'est officiel, il a été tué en Iran. Frappe israélienne. On va en parler un petit peu plus tard avec Éric Ouellette, qui est spécialiste de l'armée et des conflits internationaux. Mais aux Olympiques, nouvelle médaille. On peut mettre ça à notre succès canadien, en fait, cette nouvelle médaille-là. Ça a été fait et remporté cet après-midi.
Oui, dans les dernières minutes, médaille de bronze pour le Montréalais Ilia Karoun qui a remporté la médaille de bronze aux 200 mètres papillon. Une très belle performance. Un gars qui est né à Montréal, qui s'est en allé avec ses parents après ça du côté des États-Unis. Je lisais un peu sur lui tantôt. Ses parents étaient acrobates pour le Cirque du Soleil. Donc, je ne me trompe pas, à 19 ans, il a quitté la ville de Montréal pour suivre ses parents du côté de Las Vegas. Donc, médaille de bronze, on en ajoute une pour le Canada. Puis là, on est allé en appel aussi du côté du soccer féminin, Jeff.
Oui, et l'appel n'a pas été retenu. Donc, la sanction qui enlève 6 points au Canada est maintenue du côté de la FIFA. Et je les comprends parce qu'ils ont mis la main sur des courriels très incriminants.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Le premier courriel, c'est une analyste de Canada Soccer qui adresse à la sélection Mme Priestman, un courriel dans lequel elle explique son refus net de se livrer à des opérations d'espionnage par drone.
Et on se demande c'était quoi le courriel avant. Hein?
Oui, c'est ça. Et l'autre courriel qu'on a trouvé, c'est Mme Priestman qui écrit justement à un consultant ressources humaines pour lui demander des conseils par rapport au courriel qu'elle vient de recevoir sur l'espionnage. Elle dit que c'est quelque chose que l'analyste avait toujours fait par le passé sous la direction de John Erdman. Et là, maintenant, elle refuse de le faire. Elle mentionne que tous les équipes du top 10 le font et que ça fait la différence entre la victoire et la défaite. Donc, il n'y a pas de doute que c'est un modus operandi chez Soccer Canada, cette opération d'espionnage-là par drone.
Espionnage, là, c'est quand même différent que d'évaluer les jeux des équipes.
Clairement.
Moi, je me souviens quand je jouais, puis c'était pas professionnel, mais c'était pas haut professionnel. C'était professionnel comme technique, dans le sens où tu vas assister à des games des autres équipes pour voir un peu comment ils jouent, c'est quoi leur tactique, s'ils ont des jeux spéciaux et autres. Mais de là à utiliser des drones pour ce genre de compétition-là, tu sais, plein de gens disaient ils devaient explorer tout simplement le terrain, puis ça va être correct. Là,
c'est ça.
Mais ça, c'est triste parce que ça nuit aux athlètes qui n'ont rien demandé.
Exactement.
Qui n'ont pas choisi. Ils partent avec justement un pas de recul par rapport aux autres, mais pas par leurs compétences, par des choix stupides. D'entraîneurs qui devraient être des leaders positifs.
En plein ça. Et ça nuit à toute cette belle montée-là du soccer au Canada et du programme Soccer Canada. Les filles ont gagné l'or lors des derniers Jeux olympiques. Ils sont les championnes défendantes. Les hommes viennent de participer au championnat mondial pour la première fois. Ont terminé quatrième pour la première fois à la Copa América. Mais là, ça met de l'ombre sur ces belles performances-là.
Je me demande, là, ils parlent d'un genre de gangrénage là, dans les techniques puis des tactiques. Mm-hmm. Puis comme quoi, ils ne sont pas les seuls. Mm-hmm. Puis ça se faisait déjà. C'est vrai que si tu es la seule équipe qui le fait pas, Puis là, tu te mets à le faire, puis c'est toi qui te fais prendre. Ça peut être fâchant.
Ouais.
Mais malheureusement, quelqu'un a dû payer pour peut-être remettre les choses, puis les pendules à l'heure, puis remettre aussi les règlements bien au jour, puis sans trichage.
Comme le dopage à l'époque, tu sais, 1988, je me souviens, moi, j'avais regardé ça avec mes parents. Ben Johnson gagne le 100 mètres à Séoul. On est fou de jouer. Finalement, il est pris pour dopage. Mais on apprend plus 15 ans plus tard que les 6 premiers de cette épreuve-là étaient toutes dopées, se sont fait prendre plus tard dans leur carrière.
C'est triste, mais on est déçus. Hein? Il y a comme une grosse déception. Ah oh non, la personne que j'ai encouragée puis que j'aimais donc bien, en
oui.
tout cas. On le prend un peu personnel. Des fois, quand ça arrive, ça me rappelle Mme Johnson qui
avait puis le Livestrong de Lance Armstrong qui a disparu rapidement des tablettes.
Oui,
vous avez bien mentionné.
Hey, c'est 27 degrés dehors, c'est humide, vous allez le sentir. Et c'est un peu compliqué sur les routes.
Oui, bien heureusement, il y a quelque chose qui s'est terminé dans les dernières minutes. Laurentienne, direction nord, début de la sortie vers le boulevard de l'Atrium. C'était partiellement entravé en raison d'une panne, le remorquage qui a été fait dans les dernières minutes. Mais vous rappelez deux autres choses. Toujours sur Laurentienne Nord, hauteur rue de la Faune, voie de droite bloquée en raison d'un accident. Et Félix Leclerc-Ouest, avant le boulevard de l'Ormière, la voie de droite qui est bloquée en raison d'une panne. Je vous tiens au courant, mais c'est deux secteurs à éviter si vous êtes capable, les amis.
Oui, c'est le cas. Mais sinon, on vous accompagne. Puis on va le faire d'une belle manière parce que dans quelques instants, on parle à Alex Tremblay, Lamarche, directeur général de l'Îlot des Palais pour le Festival des Brasseurs. Bon, ça, peut-être que vous n'êtes pas fan de bière ou autre. L'événement en soi est familial, il est le fun. Mais en plus, on allait parler d'un peu de l'histoire de la bière. Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Ça,
comment est-ce qu'on brasse ça? Pourquoi est-ce qu'au Québec, c'est aussi populaire? On a une route des bières maintenant, des microbrasseries. Qui a pris beaucoup d'ampleur. T'sais, on cherchait notre monde dans la ville de Québec là, dans les dernières heures.
Ce sont peut-être des microbrasseries, finalement.
Surtout en Gaspésie, parce qu'il y en a plein là-bas. Puis c'est un excellent choix pour vos vacances, ça, c'est sûr. Un petit commentaire de Pascal qui dit « Ce que j'aime pas dans l'histoire du soccer, c'est que les équipes se défendent en disant « Tout le monde le fait ». T'sais, fais ton repenti, puis datit. En même temps, s'ils veulent élever cette culture-là aux yeux de tous, je comprends pourquoi ils en parlent, mais j'avoue qu'il faut aussi que tu assumes ce que tu fais dans la vie, puis ça, c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est bon pour tout le monde. Lit My Own Worst Enemy à Boulevard 102. Vous êtes en compagnie de Jeff Fortin, Tom Gauthier et moi-même, Pascal CV. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.
Non mais, on est-tu bien?
Boulevard 102.1.
À Boulevard 102.1, vous êtes dans cette équipe reconstruite qui vous accompagne pendant le retour à la maison. Mais j'espère, en fait, je vous souhaite à tous d'être... pas dans les bouchons de ne pas être dans les bouchons de circulation qu'on a sur nos autoroutes en ce moment, mais plutôt les deux pieds sur le set de patio avant l'orage. Mais pour ceux qui doivent prendre la route, Tom, ou qui sont dans ces bouchons-là, c'est où que ça se produit à Québec?
Mais Pascal, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Félix Leclerc, direction ouest, terminé dans les dernières minutes avant le boulevard de l'Ormière, la voie de droite qui était bloquée en raison d'une panne. Donc tout ça, c'est réglé, mais ça reste quand même difficile dans le secteur. Donc entre Laurentienne et le boulevard Saint-Jacques, on est au rouge assez foncé. En est sur la capitale, entre le boulevard Saint-Jacques Jacques et Pierre Bertrand. C'est difficile. Et sur Laurentienne Nord, je vous parlais qu'il y avait quelque chose au niveau de la rue de la Faune. Ben, c'est toujours le cas. Donc, entre le Bourgneuf jusqu'à la rue de la Faune, c'est difficile en ce moment. Vous avez d'autres choses à nous dire? 88-971-102.
Regardez vos cartes. Peut-être prenez vos Google Maps de ce monde pour éviter les secteurs qui sont rougis parce qu'on n'est plus habitué. Dans les deux dernières semaines, ça roulait assez
ça
facilement.
Ouais.
Puis les gens finissaient de travailler autour de 16 heures, ben, allaient vaquer à leurs occupations, qui est peut-être de boire un bon cidre. Salutations à Hugo qui nous écoute, qui dit « Je suis en livraison de cidre, puis ça me fait du bien de vous écouter, je trouve ça le fun d'être dans votre gang.
Oh, » yeah.
Donc, salut à Hugo.
Salut, mon Hugo.
Tantôt, on parle à David Rioux de Radio-Canada Sport. Il est en direct de Paris et il y a plein de potins d'anecdotes. Le gars est journaliste là-bas, puis ce qu'il fait, c'est beaucoup de réseaux sociaux, puis on a vu plein d'images captées, puis c'est le fun. Sauf qu'ils ont l'envers du décor, eux. Ils sont dans un genre de maison du Canada, nouveauté où tous les Canadiens de ce monde peuvent aller, dont les athlètes. Mais non, il n'est pas au village des athlètes. Là.
Non.
Ça, peut-être que je vous confierai tantôt comment est-ce qu'on pourrait faire une incursion dans le village des Olympiens. Un petit quelque chose pour vous. Sinon, il y a un super événement qui s'en vient à Québec. On est vraiment contents d'en jaser à Boulevard 102 puis même d'être collaborateur dans tout ça, puis d'être partenaire. Et c'est le Festival des brasseurs et des artisans de Québec. Ça sera au Domaine Maizeray, 9 au 11 août. Donc, ça approche. Et pour en parler, on a au bout du fil Alex Tremblay-Lamarche, qui est directeur général de l'Îlot des Palais. Salut, Alex.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu es aussi, sinon plus, excité, nous, d'un événement comme ça, familial, mais qui permet peut-être aux parents, aux personnes majeures, de goûter des petites brous d'un peu partout au Québec?
Ah, c'est sûr qu'on est excités. Nous, c'est la deuxième année qu'on est associé à l'événement. Et honnêtement, face au succès de l'année passée, bien, on a eu envie de se réassocier cette année, puis même de développer quelque chose d'assez particulier, une bière historique.
Une bière historique? Mmh. C'est quoi le développement d'une bière historique? C'est dans la façon de faire qui est plus artisanale ou?
Bien, que dans le fond, l'Îlot des Palais, ben, c'est un musée qui met de l'avant l'histoire de la première brasserie en Amérique du Nord, la brasserie fondée par l'intendant Jean Talon dans les années 1660. Et cette année, ben, on s'est assis ensemble, les gars de la souche et moi, puis on s'est dit, hey, ça serait le fun de développer quelque chose de vraiment pété pour le Festival des brasseurs et artisans de Québec. Puis on s'est dit, et si on essayait de recréer la première bière qui a été créée à Québec, la bière de Jean Talon?
Mais ça peut-tu faire peur, ça? Parce que j'ai l'impression... Tu sais, le premier vin, sais-tu quoi? Je te le laisse, Alex, si jamais tu veux le recréer. Fait qu'est-ce que c'est un peu la même chose pour la bière?
Non. Bien entendu, c'est sûr qu'on respecte les normes sanitaires d'aujourd'hui qui n'étaient pas respectées à l'époque.
T'es bon, ça va.
Mais on se dit, comment est-ce qu'on peut essayer de recréer cette bière-là du 17e siècle? Et donc, on a fait des recherches historiques pour trouver qu'est-ce qu'on brassait à Québec dans les années 1660. Et en fouillant dans les archives, on s'est rendu compte que, bon, ben l'intendant Chantalon, il venait du nord de la France. Puis que ce qu'il brassait, c'était probablement quelque chose qui ressemblait à une blonde belge. Et donc, ben on a été chercher une levure flamande qui vient de Belgique, près de d'où venait Jean Talon. On a également trouvé que ce qui était super important dans le goût de la bière à l'époque de Jean Talon, c'était le houblon. Donc, on a été chercher un houblon noble, Saz, pour donner un profil herbacé floral à la bière. Et donc, on a vraiment reconstitué la bière telle qu'elle était au 17e siècle à partir des documents d'archives, tout en lui donnant un goût, bien entendu, qu'on espère qu'il va plaire aux buveurs d'aujourd'hui.
Est-ce que la façon de brasser la bière est différente aussi, probablement avec l'équipement? Est-ce que vous avez tenu aussi à reproduire ça?
Ben c'est sûr que c'est plus les mêmes équipements qu'on avait au 17e siècle, mais bien entendu, on prend le même processus. Donc, on prend du grain, on va effectivement le faire malter, puis effectivement, on va faire une espèce de jus qui va par la suite être dans lequel l'alcool va se développer grâce à la fermentation, puis on laisse reposer. Donc, c'est le même processus qu'au 17e siècle, mais avec des instruments modernes.
Alex, tu m'as parlé d'un produit belge, une blonde. Moi, pour moi, c'est toujours une bière qui est un peu plus riche, mais là, tu as aussi dit floral, houblon. C'est quoi vraiment le goût de cette bière-là?
Mais honnêtement, j'ai pas encore eu l'occasion d'y goûter, puis j'ai vraiment très hâte d'y goûter.
Elle est encore d'un baril, c'est tout ça qu'on comprend? Ou?
Oui, c'est la 4000 barriques. Dans le fond, ça va être ça le nom de la bière. Puis pourquoi 4000 barriques? Eh bien, c'est parce que l'intendant Jean Talon avait l'intention de faire 4000 barriques de bière par année à l'Îlot des Palais, donc en basse ville, là, pas très loin de où est la gare du Palais. Une barrique de bière, grosso modo, c'est 225 litres. Donc ça veut dire à peu près 900 000 litres par année de bière qu'il avait l'intention de faire pour les colons et pour exportation vers les Antilles. Et donc, on a décidé de nommer la bière en faisant ce petit clin d'œil.
Il y avait quand même bien moins de monde qu'avant sur le territoire. Je comprends qu'on avait une exportation vers les Antilles, mais il y avait soif quand même avec ce nombre de litres.
Oui, c'est ça. Puis Alex, moi, je suis un gars de la basse ville, j'aime beaucoup fêter. Fait que ça devient-tu de l'intendant Jean Talon?
Ouais, c'était-tu le
produit? C'est lui que je remercie, qu'est-ce que je fais?
T'as-tu une production pour lui, puis il faisait semblant que c'était pour tout le monde? Ou?
Ben, en fait, assez rapidement, il va se rendre compte que ça fonctionne pas parce que la plupart des colons brassent eux-mêmes leur bière. T'sais, on a l'impression que c'est quelque chose là, qui est relativement récent, mais...
Mais là, il devenait-tu aveugle? Je veux dire, à un moment donné, s'il n'y a pas de loi, de règlement, les colons brassent leur bière avec ce qu'ils ont. Y a-tu des histoires par rapport à ça, Alex?
Ah, les histoires par rapport à ça, c'est davantage à l'époque de la prohibition. Mais si jamais ça intéresse certains de vos auditeurs, on a une exposition à l'Îlot des Palais sur l'histoire du nightlife à Québec. Et donc, qui parle un petit peu de cette époque-là où on brassait sa bière chez soi, mais aussi, bon, de l'époque des discothèques, etc.
On a fait une parenthèse sur les colons qui brassaient leur bière, mais ce que tu allais dire, c'est que peut-être qu'il faisait pour lui parce que justement, il s'est rendu compte que les autres brassaient aussi leur bière.
Exact.
Jean Talon était un bon buveur, un genre de Churchill côté alcool ou est-ce que vous avez cherché aussi sur son histoire par rapport à ses goûts?
On n'a pas trop de détails sur les goûts lui-même de Jean Talon. En fait, la raison pour laquelle il veut produire de la bière en Nouvelle-France, c'est vraiment dans une perspective économique. La Nouvelle-France, dans les années 1660, c'est une colonie qui exporte beaucoup de ses ressources vers la France, du poisson, de la fourrure. Or, Jean Talon, il dit, si on produit nous-mêmes des produits transformés, de la bière, on va faire beaucoup plus d'argent, puis la colonie va pouvoir devenir prospère. Donc, c'était un peu un projet de société de brasser de la bière pour apporter de la richesse dans la colonie.
On sait-tu s'il y a eu des débordements, puis il a fallu réguler, tu sais, pas plus que tant de bière pour les colons, peut-être pas pour lui, il devait pouvoir, en tout cas, boire autant qu'il veut, même dans le baril, là, si c'était lui le chef, là, mais on a-tu des histoires comme ça sur notre culture ici à Québec ou au Québec par rapport à la bière?
Ah ben oui, c'est sûr que de tout temps, il y a eu des débordements, puis Québec, pendant très longtemps, a été une ville de marins. Donc ça, ça veut dire des...
On les a vus cet été, Alex! Ouais. Ils sont revenus! Ouais.
Ils sont party!
Et donc, ils sont sur le bateau pendant un certain temps, puis quand ils débarquent à Québec, ils reçoivent leur paye. Et donc, ils vont boire une partie de leur paye.
J'adore.
Donc, on voit dans les registres des prisons, là, au 17e, 18e, 19e siècle, beaucoup de marins qui sont emprisonnés pour des ordres en raison, effectivement, de consommation excessive d'alcool et compagnie.
Alex, rassure-moi, on s'en va vers le Festival des artisans brasseurs de Québec. Il manquera pas de bière, là. On sera pas des Jean Talon de nous-mêmes, là.
Oh que non, ben le Festival des brasseurs artisans de Québec, c'est 25 exposants, donc plusieurs microbrasseries de la région, mais aussi si vous n'êtes pas amateur de bière, mais que vous aimez bien les d'autres sortes d'alcool, il y a une hydromellerie, une cidrerie, également la distillerie Stadacone qui fait un excellent gin, des cocktails, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, en plus d'avoir effectivement quelques restaurateurs locaux là pour se mettre de quoi sous la dent.
Est-ce qu'on sait qui va participer côté restauration?
Social Saucissier, Oui Oui Café, Maud Épicerie Laboratoire Culinaire, la microbrasserie La Souche aussi, qui est aussi un restaurant, puis l'Emporium.
Extraordinaire. Ça va vraiment être un bel événement. Du 9 au 11 août prochain, rendez-vous au Domaine Maizeret pour ce festival-là des brasseurs et des artisans de Québec. Comme Alex a très bien mentionné, on va pouvoir bien manger, bien boire, découvrir aussi, poser des questions. Puis un espace familial quand même à mentionner, Alex. Hein, on le faisait d'entrée de jeu, nommer le fait que c'est un événement pour toute la famille, malgré que ça tourne autour de la dégustation, entre autres, d'alcool.
Oui, ben c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire quand j'ai eu l'occasion d'y aller. Des jeux géants sur table, une maquilleuse, des tournois de cornhole. Donc, il y a également l'îlot des palais qui va être présent pour répondre aux questions sur l'archéologie puis l'histoire de la bière. Donc, il y a vraiment des choses pour toute la famille. Puis des spectacles musicaux aussi. Un hommage à AC/DC, entre autres. Fait qu'il y a vraiment tout plein d'activités qui sont offertes. Donc, que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, ça vaut la peine de venir faire un tour.
Sur la scène Boulevard en plus. Donc, les Hells Bells, hommage à AC/DC le vendredi et Marie-Céleste le samedi. Puis Marie-Céleste, notre collègue Tom qui est ici en studio, disait que ça brassait pas à peu près. Là. C'est pas une histoire de groupe pour enfants, là, Marie-Céleste. Ça brasse, puis c'est le fun, pour faire le party sur la scène Boulevard. Merci beaucoup, Alex Tremblay-Lamarche, directeur général de l'Îlot des Palais. C'était un plaisir de te parler, puis c'était super intéressant.
Ben, ça a été un plaisir. On se voit au festival dans la prochaine fin de semaine.
Exactement. Yes. Pas en fin de semaine, l'autre.
Exact.
Salut, Alex.
Merci.
Au revoir.
C'est le fun d'avoir ce genre d'événement-là. Yes. On a passé le fait qu'on va avoir passé certains autres événements. Puis, tu sais, se séparer, puis toi, tu peux le commenter, Jeff, parce que t'es papa, mais des fois... T'as le goût de vivre des événements comme ça, mais c'est pas toujours adapté aux enfants. Là, t'as
un deux dans un. Puis moi, l'an passé, j'étais allé passer mon vendredi soir. Là, c'était excellent.
T'as eu du fun.
Ah oh, oui, bel hommage également, musical. Puis ce qui est plaisant, puis je vais faire un peu un parallèle avec le festival Cigale, qui là, où leur publicité, c'est « Hey, ici, c'est un festival, mais t'as de la place. »
Oui.
Bien, c'est le même principe avec le festival des artisans brasseurs. Il y avait du monde, mais juste assez pour avoir du fun avec le monde.
Se stationner.
Mais pour aussi que les microbrasseries, les artisans aient le temps de te présenter le produit.
Ah, j'aime ça entendre ça.
Fait que moi, je tripais parce que j'allais découvrir, même si je connais bien les microbrasseries, OK, t'as tel nouveau produit.
La passion prend de la place, puis il y a de la place pour la passion.
Ça, oui, puis là, ils te parlent, ça, c'est un mélange d'un tel malt qu'on a fait, d'un tel arôme, puis là, on a testé ça, puis là, au début, on n'était pas satisfait, mais là, après ça, on a rajouté ça, puis là, c'est ça que ça te donne dans ton verre. T'sais. Fait que c'est cool parce que tu goûtes la bière, tu fais, il y a donc bien raison, ça goûte ça.
Mais c'est bon à savoir parce qu'en plus, c'est ça. Si toi, t'es passionné, tu cherches un endroit où en jaser. Puis ça va être à ce festival-là des brasseurs et artisans de Québec. On répète, c'est du 9 au 11 août prochain. Toute la fin de semaine, c'est propulsé par votre station, Boulevard 102.1. Puis on va être sur place aussi dimanche 11 août dès midi. Il y a plein de cadeaux qui incluent des billets pour le show d'adieu de NoFX à Montréal. Fait qu'on va être là, puis on va vous gâter en plus que vous soyez gâtés d'aller là.
Wow.
Puis on dirait qu'on se lâche là cet après-midi. J'ai pour vous deux verres et deux consommations. Ça veut dire le verre de l'événement avec des consommations qui peuvent remplir le dit verre.
T'es sûr qu'on les fait tirer? On les garde pas?
Malheureusement.
Oh.
Malheureusement,
heureusement.
Bien, pour les auditeurs, c'est sûr. 88-971-1021. Quel intendant a souhaité fabriquer la bière ici? Puis se saouler, qu'on le dise.
Mon intendant préféré.
Celui qui a bâti mes jours de festivité. Foo Fighters de glace à Boulevard 102, Jeff Fortin, Tom Gauthier, moi-même, Pascal CV pour vous accompagner. On le vit, un retour à la maison un petit peu plus rocambolesque sur les routes. Soyez prudents, puis si vous êtes pressés, soyez le moins dans certains secteurs parce que vous pourriez être aussi dans ce dit accident, vous faire arrêter. Le véhicule devant très, 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 très rapidement. C'est le cas, là, dans la ville de Québec, en ce moment, il y a certains ralentissements qui surprennent les automobilistes.
Oui, bien, en ce moment, la chose à vous mentionner, c'est un accident à la hauteur de la rue de la Faune, sur Laurentienne, en direction nord. Donc, entre Félix-Leclerc jusqu'à la rue de la Faune, ça avance pas très, très vite. On est au rouge foncé. Et les autres choses à vous mentionner, capitale en ouest à la hauteur de Robert Bourassa jusqu'au boulevard Saint-Jacques, c'est difficile en ce moment. Entrée du pont Pierre-Laporte via Henri IV en direction sud, c'est difficile aussi. Et sinon, je termine avec la rive sud, la 20, en direction ouest à la hauteur du chemin des îles. Il y a un ralentissement aussi. Vous avez d'autres choses à mentionner, les amis? 418-971-1021.
Celui qui fait la circulation s'appelle Thomas Gauthier. Celui qui est au sport et à l'animation s'appelle Jeff Fortin.
C'est moi.
Et je m'appelle Pascal. Alors, vous êtes en compagnie de ce trio-là jusqu'à 18h. Puis on va faire toutes sortes de discussions au courant des prochaines heures parce qu'on s'en va rejoindre un correspondant du côté de Paris pour
j'ai
les
tellement
Olympiques.
Hâte.
Moi aussi, j'ai hâte de parler à David Rioux, honnêtement.
Oh, oui.
Il est impotent.
J'aime
des anecdotes.
Tellement ça, moi, les dessous des Jeux olympiques.
Tu sais, il a dit qu'il a assisté à une game de Uno là, entre Canadiens et Français, puis ça a mal tourné. Il nous a teasé, là.
Mais attends une minute, là. Les Jeux olympiques, c'est censé être une grande réunion sportive où tout le monde est main dans la main. T'es en train de me dire que la chicane pogne Uno?
La chicane pogne Uno, puis la chicane se dénoue entre Ukrainiens et Russie.
OK, donc, fait que là, les Ukrainiens puis les Russes vivent bien ensemble, mais les Canadiens puis les Français...
Se chicanent au Uno. Si vous comprenez autant rien que nous, soyez là à 16h.
Ouais, c'est ça, là. Faut que David nous explique ça.
Environ, on va recevoir le journaliste de Radio-Canada, David Rioux. Sinon, il y a d'autres choses à mentionner. Entre autres, on est dans cette période estivale où l'actualité des urgences, c'est toujours un sujet chaud. Puis là, c'est chaud au point où il y a des fermetures d'urgence à travers le Québec. C'est pas quelque chose que j'aurais cru entendre de ma sainte vie, comme on dit, comme l'expression. Là. Je pensais pas que c'était possible. C'est service essentiel. Pour moi, l'urgence, c'en est un. Là.
Exactement. Puis en plus de ça, bien, les établissements du réseau de la santé qui ont engendré un gros déficit de plus $1 milliard l'an dernier, un imposant, faut se le dire, trou financier qui est causé en grande partie par l'embauche des coûteuses agences privées. Le déficit total qui est un peu plus $1 milliard selon les données là, du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 2023 et 2024, ça représente 2,6% du budget total du réseau. C'est un écart de 2 milliards avec l'année précédente qui avait cumulé un surplus d'1,2 milliard. Ces données-là, oui, ça inclut les hôpitaux, mais on met là-dedans les CLSC et les CHSLD. Puis les raisons qui expliquent ce déficit-là, on parle surtout du recours à la main-d'œuvre indépendante, donc infirmières, préposées, techniciens, qui a coûté plus de $600 millions en 2023-2024. Les taux horaires étant plus chers l'an dernier, ça rentre là-dedans aussi. Puis on peut dire le prix de certains médicaments, la hausse des besoins et l'inflation. Rappelons que le ministère de la Santé et des Services sociaux qui souhaite mettre fin aux agences privées en santé d'ici 2024 en région métropolitaine et d'ici 2026, donc 2 ans plus tard, un peu partout au Québec.
Oui, pour ceux qui se demandent, pourquoi c'est le branle-bas de combat sur la Côte-Nord si l'échéance a été fixée en 2026 pour le personnel d'agence privée, c'est qu'en même temps qu'on a fait ça, on a décidé de plafonner ce qu'on allait donner au personnel qui provient d'agences privées. à titre de comparatif, là, l'année dernière, c'était 150 $ et même plus à certaines occasions. Et là, on le plafonnait à 74,36. Oui. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plein de gens qui se rendaient sur la Côte-Nord pour aller travailler là en se disant « Ben écoute, avec ce qu'on m'offre comme revenu, je vais y aller, je vais aller sacrifier, c'est un avantage, je vais aller sacrifier
une partie. » Tu avais des horaires qui te permettaient de redescendre dans ta ville natale
aussi. En
plein
ça. Donc là, je m'organise, exemple, avec mon conjoint. Je dis « Écoute, m'en aller faire 2 semaines en Côte-Nord, m'en venir 2 semaines ici, tu vas être capable de prendre le relais, puis on va faire en guillemets, une passe de cash. T'sais. Mais là, à 74,36, elle n'existe plus, ça.
Fait que c'est moins attrayant d'aller dans le Nord pour travailler. Dans le Nord, on s'entend que c'est la côte Nord, là. On parle pas de Labrador
non,
et autres.
Du
là. Mais c'est quand même à 8 heures de route quand tu y penses. Là.
En plein ça, donc
si
là,
tu
les
prends l'avion,
gens...
tu peux avoir un billet à 500 $ mais encore là, peut-être que ça gruge ta paye avec ce genre de boni-là. C'est plus un avantage.
C'est plus un avantage d'y aller. Donc, c'est pour ça que même si c'était prévu juste en 2026, avec cette mesure-là également additionnelle de plafonner le coût pour réduire les déficits,
exact.
Comme Tom vient de nous expliquer, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de gens qui lèvent la main.
Puis ça me fait capoter parce que, ben là, il y a fermeture d'urgence, entre autres,
Forestville et Escoumin.
Selon certaines plages horaires, puis une fermeture d'urgence, parce qu'après ça, c'est des kilomètres et des kilomètres. Forestville, cette île, c'est pas à côté. T'as encore plusieurs heures de
c'est
route.
Loin,
là. 150 kilomètres qui est entre les deux. Puis cette île, c'est la plus grosse ville où tu pourrais être soigné. Souvent, l'urgence, parce que ça presse.
Ben c'est ça.
C'est pas l'urgence, c'est que c'était pas prévu.
Mais ben là, en fait, juste imaginer un accident de voiture, je suis en train de faire une hémorragie. Je suis à 150
km. Les ambulanciers, les ambulancières peuvent aider, mais jusqu'à un point X, ben, parce qu'ils ont.
Jusqu'à un point
pas
où, normalement, dans le temps que ça te prend le 150 km, ben, tu aurais déjà une opération de commencer.
Oui, puis après ça, ben là, tu es sur la route et non en train d'intervenir s'il y a une autre urgence du côté. Puis il y a encore là, pénurie de main-d'œuvre pour les ambulanciers et les ambulancières. Il y a vraiment quelque chose au Québec qui, je pense, doit être revu. Puis là, je ne veux pas faire ma gérante d'estrade, mais c'est d'aller parler aux gens sur le terrain.
Clairement.
Tu sais, on a énormément de gestionnaires, on a énormément de gens embauchés pour faire des horaires, pour repenser à est-ce qu'on vous envoie dans des régions X. On a du monde au ministère de la Santé comme pas possible. On investit des milliards dans la santé depuis toujours. C'est pas nécessairement un manque d'argent quand tu regardes ça, c'est vraiment tout ce qui est gestion. Puis là, les syndicats embarquent là-dedans et tout, mais les gens sur le plancher, je peux pas croire que c'est toujours les commentateurs médiatiques ou encore les gens sur le plancher qui essaient d'en parler une fois de temps en temps, mais qui ont un devoir de réserve pour pas se faire renvoyer. Pour vrai, là. Puis, tu sais, ils peuvent avoir 3 avertissements et perdre leur travail. Puis ça, par contre, on le respecte, là. T'sais, si vous avez parlé, on va vous en donner un avertissement. Si vous n'avez pas fait votre temps supplémentaire, on va vous en donner un autre avertissement. Puis s'il y a un autre... Puis des fois, le temps supplémentaire que tu as refusé, c'est parce que tu n'avais personne à la maison pour garder tes enfants. Puis c'est ça, je pense que ça devrait être aussi discuté. Parce que c'est pas juste des gens qui le refusent, mais si tu es brûlé, puis tu penses que ta condition physique, mentale, pourrait nuire à ton intervention hospitalière, bien, on a un problème. Puis en plus, bien, si tu n'as personne pour s'occuper de ta propre famille, si tu refuses le temps supplémentaire, puis là, c'est quand il n'est pas obligatoire, bien, c'est pas parce que tu ne veux pas travailler. Tu sais, c'est fascinant.
Ouais. Puis tu amènes 2 points super intéressants. Le premier, le temps supplémentaire que tu amènes. On a parlé avec une infirmière, Ginny Boutet, qui vient nous voir assez régulièrement le matin. Puis ce qu'elle expliquait, c'est que les statistiques de temps supplémentaire obligatoire sont erronées. Par exemple, elle travaille au niveau des enfants qui sont nés prématurément. Puis leur équipe s'organise entre eux. T'sais, ils savent déjà, mettons, telle plage, on va être en temps supplémentaire obligatoire. Fait que regarde, moi, je vais faire le mercredi parce que j'ai pas de cheerleading avec ma fille.
Mon chum est à maison.
C'est ça. Toi, fais le jeudi, l'autre fait le vendredi. Fait que ça compte pas dans le pourcentage de temps supplémentaire obligatoire parce que les filles se sont organisées.
Mais c'est du temps supplémentaire.
Ils se l'ont déjà attribué. Fait qu'elle dit, si on s'organisait pas, le temps supplémentaire obligatoire, exemple, là, le gouvernement, là, je donne un chiffre comme ça parce que je l'ai pas devant moi, là, il exploserait à dire.
Mais là, est-ce qu'ils sont en plus dans l'obligation de faire du temps supplémentaire quand ils en ont déjà fait parce que ça comptait pas dans la banque?
Ben oui.
Fait que là, ils font du double le temps supplémentaire.
Exactement, parce que ça parvient un imprévu. Ben oui, parce que ça parvient un imprévu. Fait que là, toi, tu te dis, OK, mercredi, je le prends. Ma fille fait pas de cheerleading, je le prends. Mais tu arrives le samedi, puis tu as une collègue de travail, finalement, qui dit, hey, écoutez, là, je peux pas rentrer. Là, je prends cette expression. M'a morvé sur le petit bébé qu'il faut pas qu'il y ait de bactéries. Ouais. Je peux pas rentrer. Ouais. Fait que là, c'est bah, ben, parfait, Jenny, c'est à ton tour, let's go.
Mais Jenny, elle s'était déjà arrangée pour faire un temps supplémentaire avec sa colle. Ouais, je comprends.
C'est ça. Okay. OK, c'est beau, c'est moi qui reste. Puis l'autre chose que tu amènes, par contre, sur le CA de Santé Québec, normalement, c'est prévu, il y aura des médecins, des infirmières, des pharmaciens pour justement faire en sorte qu'il y ait des gens de terrain qui soient là pour prendre les décisions puis participer aux grandes orientations.
Ça, ça a été déjà discuté, mais pour avoir quelques années là, de suivi de ça, souvent, c'est considéré, mais il en manque quand même de la considération parce qu'il y a bien les enjeux moraux puis éthiques. Puis je fais une mini-parenthèse, parce que toi et moi, on pourrait partir pendant une demi-heure là-dessus, là, mais j'avais fait un reportage avec un urgentologue. C'était à l'Enfant Jésus. Je ne sais pas si lui est encore à l'emploi. Je pense qu'il était dans ses dernières années. Mm-hmm. Mettons, reculons de 7 ans. Puis ça me stressait bien gros, là, moi, d'aller faire ce reportage-là en urgence pour ce que je pouvais voir. Là. Moi, quelqu'un qui... Puis c'est des traumatismes crâniens beaucoup maintenant à l'Enfant Jésus.
Ouais.
Puis je... Je suis pas le genre de personne qui pourrait être médecin à l'urgence. Je ne pourrais pas être chirurgienne, là. Assurément. Puis il expliquait, puis finalement, on n'a pas eu. Peut-être j'avais prié le ciel là, que ça n'arrive pas, mais on n'avait pas eu d'urgence de ce genre-là. Fait qu'on avait commencé à discuter. Puis tu sais, il disait, il faut se poser des questions aussi au Québec. Parce qu'on a de la misère, puis on a des tabous par rapport à la mort. Mais il dit, ce qui bloque dans les urgences, puis si on nous consulte, puis s'ils viennent voir sur le terrain, c'est pas nécessairement l'urgence, c'est le premier étage. Là où, entre parenthèses, les gens sont entreposés. Fait que toi, si mettons, t'as un problème de santé mentale, puis là, tout ce qui est hôpitaux psychiatriques ont été fermés, on t'amène à l'urgence, puis ils te font un lit. On travaille pas comme ça, faut qu'on gère la situation, t'es en crise. Pis quand t'es plus en crise, puis que là... Mettons, les ressources des organisations ou autres ne peuvent pas te prendre. Nous, on ne peut pas te sacrer dehors. C'est pas éthique, c'est pas moral. Mm-hmm. Fait que là, on t'envoie au premier étage. Puis des fois, c'est rempli aussi de gens en CHSLD qui n'ont pas de famille.
Ouais.
Puis que il y a des problématiques de santé et autres. Puis là, la famille dit non, on peut pas le prendre. Non, nous, on peut pas faire ça. Puis là, CHSLD dit non, parce qu'on ne peut pas s'en occuper pendant sa réhabilitation. Fait qu'ils sont pris au premier étage de l'hôpital, ce qui fait en sorte que les gens de l'urgence ne peuvent pas monter. Fait que là, l'urgence se bonde, puis les délais sont plus longs. Puis il dit, on a un tabou avec la mort parce que... Puis il était sensible à, là, c'était pas une personne insensible.
Bon, oui.
Mais il en avait vu beaucoup dans sa pratique où les familles disent, après la 8e opération, on l'opère encore. Mais... L'urgentologue le dit, ça ne fonctionnera pas. Là, vous êtes conscient que ça va juste prolonger un peu sa vie, mais il n'y aura pas de meilleures conditions, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Puis c'est dur à discuter avec une famille qui est émotive. Tu ne veux pas perdre ton père, tu ne veux pas perdre ta mère, mais ça se peut qu'elle en sorte légumes, elle en sorte avec plus aucune capacité physique, plus, plus de qualité de vie, plus aucune capacité mentale, plus... C'est dur à discuter parce que, tu sais, nous, on les aime puis on veut les garder avec nous.
Ouais.
Mais est-ce qu'on fait un choix personnel ou on fait un choix pour les gens qu'on aime? D'être finalement dans un lit, d'avoir des plaies de lit pour le restant de leur jour, entre parenthèses, que ça va être juste finalement un peu... mettons que c'est moi, là, je serais légume dans un lit au CHSLD. C'est ça que je voudrais vraiment?
Ouf, non.
Fait que l'importance d'en discuter... quand on va bien. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qu'on a le goût, là. Mais l'importance d'en discuter puis de dire, hey, moi, si je perds toutes mes capacités demain, obstinez-vous pas.
Non.
Parce que je veux pas stagner à l'hôpital, je veux pas être dans un CHSLD à même pas savoir que je suis là. Puis je veux certainement pas être, malheureusement, disons-le, comme étant un cas difficile pour la société.
Oui, parenthèse,
ça coûte cher à l'État.
Parenthèse rapide, mon père m'a toujours dit, la journée où j'ai une couche... Si tu peux mettre fin à mes jours, fais-le.
Pour lui, c'était ça qui était gênant.
Oui, oui, parce que c'est, comment je pourrais dire, c'est la fierté.
Ben oui.
C'est l'autonomie,
ben oui.
C'est tout ça que tu viens perdre. Là.
Mais je trouvais ça intéressant. Puis je voyais que l'urgentologue trouvait ça peut-être un peu tough d'en jaser, mais qu'il y avait la clé, en partie, là, était là. Fait qu'autour de la table, j'espère que ça
totalement
va être considéré.
D'accord. Oui.
On a parlé au protecteur des malades en début de semaine, puis des patients. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il espère que la nouvelle Top Gun en santé va changer les choses.
Il y a confiance.
Il est un peu découragé. Entre Sept-Îles et Forestville, là où il y aura une urgence de fermer, c'est 350 km.
Aïe.
Pensez-y.
Plus que ça. Hein,
soyez pas malade à Sept-Îles. Nouvelle médaille olympique depuis cet après-midi. Très rapidement, Thomas.
Oui, exactement. Médaille de bronze aux 200 mètres papillon, donc natation chez les garçons. Et c'est un gars qui est né à Montréal, Ilia Karoun, qui remporte donc une autre médaille pour le Canada. Aussi, toujours côté natation, Summer McIntosh, qui s'est qualifiée pour le 200 mètres papillon chez les femmes en gagnant sa demi-finale. Donc, elle sera en grande finale demain après-midi. Puis sinon, nouveau contrat du côté du CH, Jeff.
Oui, Kaden Goulet qui a signé une extension de contrat de 6 ans pour un salaire annuel moyen de 5,5 millions de dollars. Donc, c'est un excellent contrat pour le Canadien.
Je sais pas.
Oui, parce que...
Joueur efficace.
Joueur très efficace. Joueur qui va être à sa troisième saison. C'est un jeune défenseur. C'est un défenseur qui est capable de jouer contre les meilleurs joueurs de l'autre côté puis les réduire au silence. C'est un défenseur qui est plus défensif.
Et les réduire au silence.
Ouais, donc, exemple, il va affronter Nikita Kucherov, puis à la place que Kucherov fasse 3 points, il va en faire un.
OK.
Et là, à 5,5 millions, si on se projette dans 6 ans, ça va être une aubaine avec le plafond salarial qui va augmenter. Donc, c'est un excellent contrat.
Ben, peut-être pas pour lui, là.
Ouais, c'est
ça. Il a choisi la longévité.
Il a choisi la longévité, exactement.
Et Montréal.
Par rapport au fait qu'il se dit, ah, ben peut-être que si je donne des bonnes performances dans les 2-3 prochaines années, je vais frapper le gros lot.
Ah, merci pour les explications.
Ça fait plaisir.
Au retour, on parle à David Rioux de Radio-Canada Sport en direct de Paris, les Red Hot Chili Peppers.
Qu'à 18h. Non mais, on est-tu bien?
Ouais, on a ri beaucoup avec David Rioux de Radio-Canada Sport, avec ses potins et autres. Qu'est-ce que vous avez retenu de la conversation? Honnêtement, de mon côté, c'est tout ce qui est collectivité, mais entre pays, malgré les guerres, malgré les différends, malgré peut-être justement le côté compétitif.
Mm-hmm. C'est un excellent point. Moi, je vais te dire, j'ai plus retenu la qualité de l'hébergement pour les Olympiens.
Le lit en carton encore?
Ouais, mais oui, j'en reviens pas que rendu où est-ce qu'on est, avec les problèmes d'entraînement qui ont tellement évolué, avec le fait que ces athlètes-là prennent encore plus soin que leur santé.
Qu'on leur offre encore des lits en carton.
On dit quand même, là, un petit lit en carton, pour organise-toi avec ça. Ça n'a comme pas d'allure. Surtout que ça coûte des milliards et des milliards et des milliards de dollars, les Jeux olympiques.
Mais oui.
Veux-tu bien fournir un matelas?
Moi, ça serait la sécurité, je pense. Parce que j'avais lu un article juste avant les Jeux olympiques qui avait au-dessus de 40 000 personne de sécurité qui allait être là. Puis David nous disait qu'il était hébergé dans un quartier qui était pas, si tu veux, safe à la base. Puis là, il y a tellement de sécurité, puis les gens se sentent bien là où il est. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu. Puis il nous a dit que l'organisation était on point sur la
Sûreté du Québec qui est sur place aussi, vu la pénurie un peu de main-d'œuvre côté sécurité. Je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a du monde de Québec qui sont pas des athlètes ou des journalistes qui sont sur place, puis entre autres pour la sécurité. On parlait du jeu Uno où il y a eu compétition entre des Canadiens et des Françaises. On a trouvé le clip, ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus visuel, mais en gros, on est à une carte jaune. On passe à une carte bleue. La carte jaune, c'est un zéro. La carte bleue, c'est un zéro. Mais la Française en met deux. Fait qu'elle met 2-0, puis elle a dit qu'elle a le droit si c'est 2-0. Ça fait le tour du web en ce moment, cette vidéo-là.
Quand il y a des chiffres, par exemple, là, imaginons c'était il y avait un 3.
Imaginons.
Un 9 jaune. Elle pose un 3 jaune et elle a un 3 bleu, ben elle peut poser.
Bah oui,
un 3 rouge.
Merci.
Ça s'appelle les Canadiens, ils ont dit non.
Ça s'appelle Uno, tu mets une carte.
Non.
Oui, Uno,
non,
un.
Non, Uno, c'est pas la dernière.
Donc là, ils sont en train de s'obstiner sur combien de cartes ils peuvent mettre. C'est comme si moi, c'était mon tour, puis j'avais 2-7. La carte qui était en dessous, c'était un 7. Ben, je mettais mes 2-7. Mais non, tu as droit à une carte à la
fois.
Oui,
c'est ça. Les Français savent pas jouer au Uno.
Les Français savent pas jouer au Uno.
Ça n'a aucun bon sens.
Les Canadiennes sont sur le terrain de soccer en ce moment. La game est bien débutée. Elles mènent 1-0 en ce moment. On est à la deuxième...
Fin du match.
Ouais.
Fin
de deuxième demi.
Oui, on arrive tranquillement 3 minutes avant les arrêts de jeu et le Canada qui pourrait se qualifier. Je vous rappelle qu'il y a eu une pénalité de moins 6 points. Donc, on a commencé le tournoi à moins 6. On gagne les deux premiers matchs. On est maintenant à 0. Et si on gagne ce match-là, on est à 3 et on passe au prochain tour. C'est assez incroyable avec le dossier du drone, notamment.
Go pour nos Canadiens!
Go!
Go, go, go!
Fall Out Boy s'en vient sur les ondes de Boulevard 102.1. Mais pour l'instant, c'est Nirvana, All Apologies dans vos oreilles pour le retour à la maison.
Il ne faut pas rester sous un arbre ni ouvrir un parapluie. Alors, est-ce vraiment dangereux? Quel comportement faut-il adopter pour se protéger? Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur les orages dans l'atelier. Oh, j'ai senti une goutte. Ne restons pas là, ça va nous tomber sur la tête.
Oh oui, vous pourrez le sentir, cet orage-là, dans 30 minutes environ, ou peu importe où vous vous trouvez, puis que ça a commencé. 88-971-1021. Selon AccuWeather Météo Média, ça ne commence pas au même moment. Météo Média, c'est environ dans une demi-heure pour Québec. AccuWeather, c'est dans 4 minutes. Le sentez-vous? Ça va nous tomber sur la tête. Québec, oui. Et puis même Environnement Canada, qui est très, très précis sur son alerte, là. Veille d'orage violent. Bon, on est dedans. On n'est plus dans la veille, là, mais on est là, là. Pour cet après-midi, ce soir, conditions propices à la formation d'orages qui peuvent produire de la grêle de grosse taille. Mais on ne définit pas qu'est-ce que de la grosse taille pour la grêle.
Ça va être une balle de golf, un caillou ou un dixaine.
Est-ce une belle de golf, un caillou, un 10 cents? On s'y connaît dans de la taille, mais peut-être pas la taille de la grêle. Puis quand on nous dit qu'elle est grosse, on peut pas vraiment s'imaginer à quel point. Mais pour ceux qui pourront, mesurez-la, envoyez-nous les informations. Mais les pluies torrentielles aussi qui peuvent être attendues, accumulation d'eau sur les routes. Soyez donc prudents. Pas d'activité nautique aujourd'hui, selon Maman Pascal. Pas de piscine, pas de baignade, pas de spa, pas de parapluie. Attirez pas la foudre sur vous parce que, on nous précise que ça blesse les Canadiens chaque année. Faut pas oublier quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur.
Mais attends, Pascal, on va aller se baigner.
Mais non, mon beau garçon, ça sera pas ce soir. Okay. Mais si je regarde la météo, vendredi, ça va être une superbe journée pour ça.
Ah, je vais pas aller faire du paddleboard.
Pool party, paddleboard,
kayak.
Juste se promener en ville aussi, ça va être possible.
Ah, ouais, donc.
30 degrés pour vendredi avec du soleil toute la journée. Puis demain, je lui ai dit, encore des possibilités d'averse, mais je vois pas d'orage au radar. Alors, fans d'orage, profitez-en. On est dedans. Puis normalement, c'est un beau spectacle. Un peu moins quand t'es sur la route, un peu moins si t'es craintif, un peu moins pour les chiens. Mais honnêtement, si vous évitez la douche, ce qui n'est pas une rumeur, faites attention, pas de douche quand il y a un orage électrique, du moins. Puis la piscine, si vous l'évitez aussi, vous allez pouvoir avoir un beau spectacle rafraîchissant. Pour ceux qui trouvaient ça chaud un peu, là, il va y avoir de l'air qui va rentrer dans votre maison. Mais peut-être la pluie aussi si vous ouvrez la fenêtre. dans les nouvelles, mon cher Tom, parce qu'on va parler des Olympiques. Là. On vient d'avoir une qualification très intéressante chez le soccer féminin avec la pénalité. Jeff va tout nous résumer ça à nouveau. Mais pour l'actualité, juste mentionner rapidement là, ce que fait la une aujourd'hui.
Ouais, sans faute. Puis pour être honnête avec vous autres, ça n'a pas trop bougé tellement depuis ce matin, depuis ce midi. Donc la grosse nouvelle qu'il faut savoir, c'est que les établissements du réseau de la santé qui ont engendré un gros déficit de plus d'un milliard de dollars l'an passé, un imposant, faut se le dire, trou financier qui a été causé par, on dit, l'embauche des coûteuses agences privées. Le déficit total qui atteint un petit peu plus 1 milliard de dollars. Ça représente 2,6% du budget total du réseau. C'est un écart de 2 milliards avec l'année précédente qui avait cumulé un surplus d'1,2 milliard. Puis ces données-là, oui, ça inclut les hôpitaux, mais on met là-dedans les CLSC et les CHSLD. Les raisons qui expliquent tout ça, on parle du recours à la main-d'œuvre indépendante qui a coûté plus de 600 millions de dollars, les taux horaires qui étaient plus chers que l'an dernier, et on ajoute aussi le prix de certains médicaments, la hausse des besoins et l'inflation. Je vous rappelle que le ministère de la Santé et des Services sociaux qui souhaite mettre fin aux agences privées en santé d'ici cette année en région métropolitaine et d'ici 2 ans, donc 2026, partout au Québec.
Tout à l'heure, je vous parlais justement du fait que même si c'est seulement en 2026 sur la Côte-Nord, le fait qu'on ait diminué la prime qu'on donne aux personnes là, qui promenaient d'agences privées, on est passé de 150 $ de l'heure à 74 $ de l'heure, fait en sorte qu'il y a moins de gens qui lèvent la main. Il n'y en a plus pantoute.
On comprend. 8 heures de route ou encore 500 $ d'avion, c'est admettons que tu t'en vas à cette île travailler, puis ton salaire ne vaut plus cette compensation de distance-là.
Tu n'iras pas.
Tu vas rester auprès de ta famille.
C'est ça. Hein? Une des solutions de rechange, c'était de créer une équipe volante, mais malheureusement, c'est comme si tout avait été fait trop rapidement dans ce dossier-là. On a coupé les primes. On a dit, on va enlever les agences privées dans certaines régions. Puis si on prend juste la Côte-Nord, on dit 2026, c'est parfait. Ça va leur donner le temps de s'organiser. Mais en coupant la prime, ça les a ramenés à 2024 parce qu'il n'y a plus de gens qui veulent aller. Et cette fameuse équipe volante-là n'était pas créée parce qu'on a réussi à s'entendre avec les employés du domaine de la santé, mais seulement ceux qui sont affiliés à la CSN le 15 juillet dernier. Fait que là, il y en a seulement deux qui sont partis, mais sont en train de se faire former. Fait que résultat...
On n'est même pas prêts sur le plancher.
Fait que résultat, l'urgence de Forestville est fermée tout le week-end.
L'urgence? Vous avez entendu ce que Jeff a dit? L'urgence est fermée
le week-end. Et ce soir et jeudi soir à partir de 17h. Et celle des Iscoumins, va être fermée de nuit toute la semaine, là, à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, entre 21h et 8h le matin.
Urgence, ça veut dire que tu as une urgence. Urgence, ça veut dire que tu ne l'as pas planifié. Puis on a fait le calcul tantôt entre Forestville et Sept-Îles, la ville qui pourrait accueillir peut-être des gens à l'urgence. C'est 350 km.
Pas à côté, là.
Ouais.
Merci, Jeff, pour les précisions. Toujours intéressant de pouvoir comparer, mais ce n'est pas des précisions intéressantes
non,
et positives. On parlait de météo. Il y a des gens qui nous ont écrit que ça a commencé l'orage, en fait. On nous fait des messages d'intérêt généraux aussi quand t'es sur la 40 ou sur l'autoroute puis il mouille, là, on allume les lumières. Il y a un auditeur qui a l'air un peu plus fâché que nous autres. Sinon, coin Amel, Robert Bourassa, ça a commencé pour la pluie depuis 3 ou 4 minutes. C'est commencé à Neuville aussi, mais il n'y a pas de grêle. Il y a des gens qui nous tiennent au courant pour pour mesurer la dite grêle.
C'est commencé, Pascal.
À la Bourgneuf, nous aussi, on le vit.
Ouais.
On le vit. Soyez prudents, puis mesurez-la. Mais la grêle.
Ouais, nous... si y a la grêle.
Nouvelle dans la grande région de Québec, hier, qui a attristé plusieurs personnes, je le crois. Le restaurant Les Frères Toc de Charlebourg, qui annonce sa fermeture après plus de 20 ans. Les propriétaires qui ont lancé le tout via la page Facebook du restaurant. Ils ont dit notamment, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour votre soutien et votre fidélité tout au long de ces années. Le restaurant qui avait été
peut-être
mis en vente.
Peut-être un peu moins pour ceux qui avaient foncé dans les murs. Là.
Ouais, le restaurant qui avait été mis en vente là, il y a plus de 5 mois pour la somme de 250 000 $. Donc, ça s'est confirmé dans les dernières heures.
Parlons bacon rapidement parce qu'il y a un artiste, Pascal. Il est tard pour tout le monde. Hein? 17 heures, tout le monde a fini de travailler. On va faire ça à la légère 17 à 16. Restez avec nous. Mais le bacon fait la une. Manger du bacon vous pousse vers la démence. C'est,
ben
c'est ce que conclut une étude américaine.
Mais attends, t'es douillème, le bacon. Là.
Il va peut-être être dément.
Ben non.
Mais c'est intéressant, par exemple.
Ah, ben, vas-y.
Côté alimentaire, là, c'est toujours intéressant. Moi, j'adore ces affaires-là. L'association d'Alzheimer aux États-Unis a mené une étude auprès de plus de 130 000 personnes. C'est pas rien, OK? On essaie toujours de définir c'est quoi les causes, la médication qu'on pourrait avoir ou encore la prévention pour l'Alzheimer. Puis ces personnes-là, plus de 130 000, je vous répète, ont été suivies pendant 43 ans. Donc, l'étude, elle est hyper pertinente, hyper intéressante. C'est juste qu'à travers l'article, on nous dit « Mangez pas des hot dogs et du bacon, mangez plutôt des haricots et des noix. » Ça, peut-être qu'on n'a pas besoin de se le faire dire.
Non, c'est ça.
Il y a un qui est meilleur que l'autre. Là.
Ouais. Mais attends. Les haricots?
Oui. Puis les noix, c'est mieux que du bacon.
Que le bacon.
Ça, c'est souhait.
Ah ouais.
Ouais.
Ah, je suis content,
de cette découverte, de cet apprentissage. Oui, mais l'étude, par contre, les gars, est vraiment intéressante. On a évalué le lien entre la viande rouge et la démence. On savait déjà que c'était quelque chose qui était pointé du doigt. Mm-hmm. Puis les chercheurs ont étudié la fréquence à laquelle les gens qui ont participé à l'étude consommaient de la viande rouge transformée. Donc, dans les pires, bacon, hot dog, saucisse, salami. Mais ils ont aussi étudié noix, légumineuses, tofu ou des protéines de soya. Puis ils ont été capables de voir là, dans les résultats qu'on révèle notamment que manger environ 2 portions de viande rouge transformée par semaine. Hey, c'est pas beaucoup, le 2.
Mais non.
Mais ça augmente quand même le risque de démence de 14 % comparativement à ceux qui en consomment moins de 3 portions par mois. Par mois.
Par mois.
J'aimerais ça à main levée, là, à moins que vous êtes végétarien ou végétalien, là, savoir combien, puis surtout dans ces temps de barbecue, peut-être un petit peu moins en ce moment quand je regarde par la fenêtre. Là, barbecue va peut-être prendre le bord, à moins que le patio soit couvert. Mais, tu sais, par mois, c'est peu. Là. C'est très, très
c'est
peu. Là, on s'entend. Puis le fait de remplacer une portion de viande rouge transformée par noix, haricots, des pois, du tofu, chaque jour, ça peut réduire le risque de démence de 20%.
Incroyable.
Mettre le doigt sur des statistiques comme ça puis des pourcentages comme ça, ça reste hyper intéressant. Là, on est dans un univers aussi de statistiques et de pourcentages.
Et voilà.
On a une excellente nouvelle avec le soccer féminin.
Hey, que c'est beau entendre ça. Je vous rappelle rapidement le dossier. Il y a eu une suspension du côté de l'équipe canadienne féminine aux Olympiques en raison de ce dossier-là. En fait, que l'équipe aurait espionné l'équipe néo-zélandaise de soccer féminin. Donc, on a donné une suspension de moins 6 points. Toutes les équipes à la base commencent avec 0, mais avec la suspension, le Canada qui commençait à moins 6. On gagne notre premier match, chaque match est 3 points. On gagne le premier, on s'en va à moins 3. On gagne le deuxième, on est à 0. Et avec une victoire face à la Colombie dans les dernières minutes, on passait au prochain tour. Et ça a été fait, les amis.
Yes!
Victoire de 1 à 0. Donc, les Canadiens qui passeront à la ronde éliminatoire pour potentiellement aller chercher une médaille. Je vous rappelle qu'ils avaient gagné la médaille d'or à Tokyo dans les Jeux de 2000.
Prochain match, samedi 13h contre l'Allemagne. Je veux dire une affaire, c'était tellement négatif pour les athlètes qui n'ont rien à voir avec cet espionnage-là. Des décisions de gestionnaire, des décisions de leader qui devraient être positifs
exact.
Et tout faire pour que l'équipe soit sur la bonne voie, soit le moins possible dans l'eau chaude. Là, Jeff nous a appris tantôt que on disait ben là, tout le monde le fait, fait que nous autres, on le fait aussi.
Oui, puis on a vu des courriels là, incriminants, là, justement, notamment là, la sélectionneuse là, d'équipe Canada, Beth Prisman, qui est une Britannique, là, qui, par courriel, a écrit à une personne en charge des ressources humaines pour dire qu'est-ce que je fais avec une de mes employées qui ne veut pas collaborer à cet espionnage-là.
Mais j'espère.
Tous les autres équipes le font, puis ça fait une différence entre la victoire et la défaite. Comment je gère le dossier? Donc, la FIFA a mis la main sur ces courriels-là, alors c'est clair que le Canada a fait de l'espionnage. Pardon.
Les drones étaient là, c'était difficile. C'est pas bon pour notre réputation, mais heureusement, les athlètes ont démontré encore plus qu'elles avaient leur place au dépens de ces sapristi de gestionnaires-là qui n'ont pas pensé à la carrière et aux efforts que leurs athlètes mettent.
Clairement.
Quand même que les autres le font, je comprends que tu veux pas être la seule qui le fait pas comme équipe, mais en même temps, tu veux parce que t'espères avoir une morale et une éthique différentes.
Exactement.
Donc, c'est ça. Prochain match pour les Canadiennes, samedi 13h contre l'Allemagne. Peut-être rapidement en complément de sport.
Capitale qui ont gagné hier 10-6 contre les Miners de Sussex County. Encore une fois, des bons matchs offensifs pour Kyle Crawl qui a frappé 3 coups sûrs et Justin Gillian également 3 coups sûrs, 2 points produits. Joue encore à Sussex County ce soir. Mais comme je l'ai fait hier, je vous le répète, Pascal a dit à la météo tout à l'heure, il y a du soleil vendredi.
Oui.
On est à 7 sales combes consécutives au niveau du Stade Canac.
Là, c'est fait, là, c'est complet.
Si vous voulez y aller vendredi, c'est pas encore complet,
okay.
Mais si vous voulez y aller,
c'est maintenant.
C'est contre les Titans d'Ottawa. C'est maintenant. C'est aller acheter vos billets. Puis samedi, allez acheter encore plus vos billets parce que avant le match à 16h, c'est un match des anciens Expos contre les anciens Capitales.
Ah, pas vrai, c'est samedi.
Ouais. Fait que t'as le match anciens Expos, anciens Capitales samedi. Puis après ça, t'as le match des Capitales en soirée.
Mais là, après ça, on va se demander si on va pouvoir manger des hot dogs avec l'étude qu'on vient d'avoir.
Ben, les hot dogs sont à 1$ les samedis au
c'est
Stade.
C'est tellement
Canac.
Pas cher. C'est tellement bon, un hot dog de
ça. Hey, oublie ta démence, là. Mange des hot dogs.
J'en oublie déjà. Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui dit par Twitch, entre autres, dans ma famille, on est des vrais carnivores, on va perdre la boule. Ça me fait rire. Mais je ris puis je ris pas. Je ris puis je ris pas parce que c'est quand même une conscience qu'on a eue des dernières
exact.
Années. Puis je me suis adaptée, mais c'est juste le bon steak sur le barbecue l'été. Là. Et n'oublions pas qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans la ville de Québec.
Vous entendez? Il y a de l'orage dans l'air. Hein? Moi, j'aime pas trop ça. Et vous? On dit que dans une telle situation, il ne faut pas rester sous un arbre ni ouvrir un parapluie. Alors, est-ce vraiment dangereux? Quel comportement faut-il adopter pour se protéger? Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur les orages.
Et je peux vous dire que la douche lors des orages électriques, la piscine ou encore les activités extérieures sont dangereuses, mesdames et messieurs.
Tout un jamis.
Rangez votre kayak et sortez-le vendredi.
On va mêler les amateurs de Radio-Canada, ils vont rester accrochés avec nous autres.
Pourquoi pas?
26 degrés, c'est ce qu'on a à l'extérieur, puis c'est de la flotte. Si vous vous demandez si c'est Gérard qui vous verse une chaudière à sa tête, c'est pas le cas. C'est vraiment Dame Nature qui nous rafraîchit, veut pas, et ce sera le scénario pour toute la soirée. On va aller faire un peu d'actualité internationale dans les prochaines minutes. On sait que un haut dirigeant du Hamas a été abattu.
Ouais.
Ça a été confirmé. Ça change la donne géopolitique. Et qui d'autre qu'Éric Ouellet, spécialiste de l'armée et des conflits internationaux, pour nous en parler? On l'a avec nous dans les prochains instants. Le temps de se divertir un peu, puis de passer peut-être cet orage avec vous. Sublime, What I Got. On va mettre du soleil, mais en musique dans votre fin de journée.
La ride parfaite pour retourner à la maison.
Boulevard 102.1.
Soyez prudents, prenez votre bateau, sinon allez-y à rame. Vous n'avez même pas besoin de véhicule parce que vous allez passer d'une flaque d'eau à une autre. Ça s'est calmé un peu à la Bourgneuf, je ne sais pas, dans votre coin. Nous, ça tombait comme si on nous versait un seau d'eau sur la tête ou on avait ouvert la hose au-dessus de notre tête, là, honnêtement. C'était toute qu'une averse que nous avons eue, puis ça va aller par fragmentation. Là. On a comme fragmenté cette averse-là. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. C'est pas la soirée du barbecue. Tu sais, des fois, il y a une averse en soirée, puis tu te dis, bon, on va ramasser ça pendant 15 minutes, là,
ouais,
le stock
là, après ça, c'est beau, on repart. Là.
Mais c'est pas le cas.
Fait que je profiterai pas de ma terrasse ce soir.
Ah, c'est ça, une autre fois. Sinon, il faudrait que tu la couvres, mais pas couverte.
La déception que j'ai dans mon visage.
Puis, je le vois le pire, je le sens. Mais ça vient aussi avec peut-être des petits problèmes sur les réseaux routiers. Mm-hmm. On sait, les roulières, quand elles sont pleines d'eau, ça vient glissant. Y en a-tu des bouchons de circulation, Tom, en ce moment?
Il y a des bons bouchons de circulation en ce moment. Toujours en lien, j'imagine, avec l'accident à la hauteur de la rue de la Faune qu'il y avait un petit peu plus tôt. Ça s'est terminé dans les dernières minutes, mais ça reste extrêmement difficile. Entre la capitale, jusqu'à un peu avant la rue de la Faune, c'est difficile en ce moment, donc on est au rouge assez foncé. Sinon, capitale en ouest, un ralentissement entre Laurentienne et Robert Bourassa. Capitale en est, entre Robert Bourassa et Laurentienne, c'est là que ça se passe. Sur Charest, directement entre Henri IV et Robert Bourassa en direction ouest, c'est difficile en ce moment. Et je termine avec la 20 en direction ouest à la hauteur du chemin des Îles, on est au rouge. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto, les amis.
C'est 26 degrés et comme nous dirait notre auditeur Jay, outside near the U.S. border, no rain yet. Lui, il pleut pas dans son coin. Il me fascine, cet auditeur-là, parce qu'il nous écrit tout le temps en anglais.
Ouais.
Je sais pas s'il se pratique. Je ne sais pas s'il pratique son français en nous écoutant, mais salut, Jay. Tiens, on ne t'a jamais salué en ondes, c'est fait. Il y a des grosses choses qui se brassent à l'international. Pendant que tous les yeux sont rivés vers Paris pour une compétition qui se veut chaleureuse, vous avez entendu notre invité tantôt, David Rioux de Radio-Canada Sport, dire qu'entre protagonistes et sportifs ukrainiens et russes, on a pris le temps de se parler un petit peu. Vous avez entendu aussi que sur une photo, on a retrouvé des athlètes de la Corée du Nord avec des athlètes de la Corée du Sud. Il y a ce genre de phénomène-là, de situation-là, durant les Olympiques qui se créent, un genre de fratrie mondiale, qui ne reste pas toujours, il faut le dire, mais qui donne un certain souffle à des conflits qui perdurent dans le monde. En ce moment, par contre, il y en a un qui vient d'hausser un petit peu en termes de gravité, puis en termes de problématiques. Je dis ça parce que ça va fâcher des gens, puis il va avoir des répercussions, c'est certain. Mais on va aller rejoindre un expert pour nous en parler, puis nous faire comprendre un peu jusqu'où ça peut aller, ces rebonds-là. Dans les dernières heures, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, j'espère que je le dis bien, a été tué, en fait, à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien. Et là, l'Iran, qui ont promis de venger sa mort, fait quand même craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Pour en jaser, on va rejoindre Eric Ouellette, spécialiste de l'armée et des conflits internationaux. Bonjour, Eric.
Bonjour.
Est-ce qu'on a bien décrit, sensiblement la situation en ce moment, cette hausse de tension qui risque de faire beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de conflits à travers le monde avec la mort du chef du Hamas?
Oui, en fait, ça s'est produit alors qu'il y avait deux événements qui sont produits avant. Donc, une attaque du Hezbollah qui est basée au Liban, qui a tué 12 enfants en Israël, des Druzes. Et il y a eu une réplique israélienne à Beyrouth où on a tué un des commandants du Hezbollah. Puis là, on a la nouvelle que le chef politique du Hamas aurait été assassiné. Donc, il y a en effet beaucoup de montées de tension en quelques jours.
Cette montée de tension-là, est-ce qu'on doit, je ne veux pas ramener ça à nous, occidentaux, mais ça reste que, est-ce qu'on doit craindre justement une fragmentation encore plus importante à travers le monde et probablement des humains qui deviendront encore plus de la chair à canon?
Il faut comprendre ce qui s'est passé, c'est dans le contexte du conflit au Moyen-Orient. Puis, est-ce qu'il va y avoir des débordements ici? Probablement pas plus qu'il y en avait avant. Cependant, il faut quand même penser qu'il y a quand même des risques que le conflit devienne un peu plus régional. Je pense que les risques sont limités, mais ils sont quand même présents en ce moment.
Comment ça peut se calculer, ça, pour la suite des choses? Est-ce que ça va mener, vous pensez, à un arrêt des tensions à un moment donné quand tout le monde va s'être vengé ou ça va juste être une escalade à travers les prochaines semaines?
Non, je pense que c'est très clair que du point de vue de l'Iran, ils doivent sauver la face pour toutes les milices qui supportent, puis les autres gouvernements qui sont plus ou moins alliés avec eux. Donc, c'est une question de prestige international, ils se doivent de répliquer. Mais d'un autre côté, c'est toujours pas dans l'intérêt de l'Iran de se lancer dans un conflit régional. Les Américains ont été bien clairs qu'ils allaient supporter Israël dans un tel cas. Donc, il va falloir que l'Iran trouve une façon de se revenger, entre guillemets, qui marque des points, mais sans amener Israël à lancer un assaut massif, par exemple, dans le sud du Liban. Donc, il va falloir qu'il soit très prudent dans la façon de répliquer, et la même chose pour Israël. Donc, c'est possible qu'il y ait une contre-réplique, mais que ça ne doit pas être trop forte pour pas pousser des pays vers un conflit régional. Ce n'est pas dans leur intérêt de le faire en ce moment.
Éric, Israël avait promis d'anéantir le Hamas. C'est pourquoi on n'a pas négocié de cesser le feu. Avec cette mort de leur chef politique, est-ce que le Hamas est anéanti ou il reste encore du travail du côté d'Israël?
D'un point de vue israélien, le travail n'est pas fini. C'est sûr qu'en tuant le chef politique du Hamas, les négociations avec le Hamas vont être plus difficiles parce qu'il va falloir qu'il y ait un successeur. C'est possible qu'il y ait des factions à l'intérieur du Hamas qui se disputent pour qui sera le successeur. D'une part. D'autre part, les forces militaires du Hamas demeurent présentes, même s'ils ont été grandement réduites. Ils continuent à mener une guerre de guérilla. Et il y a encore à Rafah le dernier bastion du Hamas que les Israéliens essaient de réduire. Donc, on a encore des conflits en vue et ça va être probablement plus difficile d'avoir une entente là, pour arrêter le conflit. Donc, ça, c'est des grands défis qui s'en viennent dans les jours, les semaines à venir.
Est-ce que dans cette succession-là qui risque de se faire, bon, pas naturellement, pas nécessairement fluidement aussi pour la suite des choses, ce sont des gens moins extrémistes qui risquent de prendre la tête de ce mouvement du Hamas ou pas du tout, puis même si on est détruit en partie et que notre chef est décédé, on continue cette guerre-là qu'on avait entamée de façon assez sanglante et sans négociation?
En fait, il y a plusieurs analystes qui considèrent que M. Hanyeh était un peu plus modéré que les autres.
Ah, okay.
Donc, oui. Donc, il y a des risques que ce soit une faction plus dure qui va se lancer dans une guerre de guérilla éternelle s'ils sont capables de le faire. Et c'est pour ça que c'est très important du point de vue israélien de trouver une sortie de là. Il y a eu des discussions jusqu'à présent d'une force de police ou de force de sécurité qui serait gérée par des Palestiniens modérés. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, mais Israël doit vraiment trouver une solution à sortir de Gaza parce que ça va tourner ça en guérilla urbaine, puis ils peuvent être pris là pendant très longtemps.
Éric, on regarde l'allié principal d'Israël, c'est les États-Unis. Présentement aux États-Unis, quand on regarde les sondages pour la présidentielle, Donald Trump est en avance et Donald Trump avait vraiment été très dur, autant de façon militaire que de façon politique étrangère avec l'Iran. Est-ce que ça vient jouer dans la balance pour l'Iran? On parle même qu'il serait en train d'essayer là, d'avoir des influences sur l'élection présidentielle américaine de novembre.
Ben, je pense que l'ingérence iranienne dans l'élection américaine va demeurer, peu importe ce qui se passe, mais c'est sûr que pour les Iraniens, si Donald Trump est élu, c'est plus inquiétant. Mais quoi qu'il faut bien être clair que même si c'était Mme Harris, c'est le Parti démocrate qui se retrouve à la Maison-Blanche, il n'y a pas beaucoup d'amour non plus là des démocrates envers l'Iran, donc... Ça va être la ligne dure contre l'Iran va demeurer. La seule chose qui peut changer, c'est peut-être la volonté de négocier si l'Iran met un peu d'eau dans son vin. Mais on verra bien si ça va se produire.
Est-ce qu'on est rendu mêlé au sein de ces organisations-là pour la défense du pourquoi ils font la guerre puis c'est violent en ce moment? On est-tu rendu à un point où ils comprennent pas trop, mais que c'est plutôt juste se venger ou essayer d'avoir une tête à l'international?
En fait, c'est un conflit qui est très ancien, hein, le conflit arabe-israélien. Donc, c'est une continuation. Hein. Écoutez, même s'il y a des répliques, là, puis ça tourne à la vendetta,
le fond reste le même.
Ouais. En fait, Israël a fait quelques bons points dans les dernières années en faisant des alliances, pas des alliances, mais je dirais des ententes avec l'Égypte, la Jordanie, et puis après ça, il y a eu les accords d'Abraham. Avec le Maroc, les Émirats arabes unis et quelques autres endroits. Donc, tenter de normaliser les relations entre les Arabes et les Israéliens, c'est ça. Si on peut continuer dans ce sens-là, ça va aider beaucoup à diminuer le conflit et peut-être finalement trouver une manière de trouver, d'avoir une négociation qui mènerait à une solution à deux États qui satisferait tout le monde, évidemment, incluant Israël.
Qu'est-ce que ce serait une solution à deux États, selon vos observations? Parce que c'est rare qu'on entend dire qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu à un moment donné dans cette guerre-là.
Ben, il va en avoir un éventuellement parce que Israël ne peut pas continuer là, à avoir des forces impliquées dans un conflit de façon permanente. Mais il faut que le Hamas soit vraiment réduit à un niveau d'activité faible, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait une solution de rechange. Donc, une nouvelle autorité palestinienne quelconque ou un consortium de pays arabes acceptable pour Israël ou même de la communauté internationale pour assurer la sécurité dans Gaza. Et de là, on peut être certain que Gaza ne sera pas utilisé pour des attaques terroristes contre Israël. C'est parce qu'au fond, Israël, c'est ça qu'ils veulent, c'est avoir la sécurité, ne pas se faire attaquer à partir de Gaza.
Éric, ça ne peut pas être à court terme, cependant, parce que je regarde d'autres conflits qu'il y a eu là, dans l'histoire. L'Irak, ça a pris énormément de temps avant justement qu'un second gouvernement après Saddam Hussein réussisse à s'établir, même principe en Afghanistan. Donc, cette solution-là, deux États, c'est plus à moyen-long terme?
Oh oui, c'est une solution à long terme, mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est la seule véritable solution qui peut devenir permanente.
Mm-hmm, en effet.
Mais on en a pour plusieurs années. Il va falloir qu'il y ait une bonne gouvernance de qualité à Gaza. On est encore loin de cette première étape.
On est presque rendu à un an du conflit. Il y a encore des otages qui sont la propriété présentement du Hamas suite à l'attaque du 7 octobre. Est-ce qu'on peut avoir encore confiance de les retrouver vivants ou là, avec tout ce qui se produit, la mort du chef politique du Hamas, ces otages-là, on fait une croix malheureusement sur eux?
Ben, le gouvernement israélien n'a pas dit ça de façon très claire, mais bon, si on suit les actualités là-bas, c'est assez clair que le gouvernement va essayer de sauver ceux qui peuvent, mais qui vont pas faire des concessions majeures pour sauver les otages. Mm-hmm. Ça, c'est assez clair. Je pense que M. Netanyahou a donné le ton là-dessus, même s'il l'a pas dit clairement.
Merci beaucoup, Éric Ouellet, spécialiste de l'armée et des conflits internationaux. C'est un plaisir de parler avec toi à chaque fois.
Merci et à la prochaine.
À la prochaine. On lui parlait parce que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tu sais, à un moment donné, c'est dur. J'espère que je le prononce bien. Là. Mais
moi, si tu ne le prononces pas bien, t'es pardonné, sache-le.
Voilà. C'est le chef du Hamas qui a été tué, en fait, à Téhéran dans une frappe qui a été imputée à Israël. Et ça, c'est dans le mouvement islamiste palestinien. L'Iran a promis de venger sa mort. Ça fait craindre un embrasement dans la région en pleine guerre à Gaza. On est loin d'en avoir terminé avec tout ça. Puis, tu sais, il faut le dire, là, la bande de Gaza, c'est en ce moment meurtri. C'est dévasté.
C'est détruit.
Ça fait 10 mois. La population qui a été prise en otage par le Hamas, clairement, tout simplement. Puis ça a été de la chair à canon. On les a même nous-mêmes utilisés comme, de la part du Hamas, là, comme bouclier humain, en se cachant à travers des hôpitaux et autres, parmi la population. C'est d'une catastrophe et d'une tragédie rarement vue.
Oui, parce que on parle régulièrement à Eric le matin dans Rage Against ce matin, puis à un moment donné, on lui a parlé justement des stratégies défensives du Hamas, et ça fait vraiment partie de leur stratégie défensive de mettre des civils à l'avant-plan, puis de se cacher dans des endroits publics.
Comme des hôpitaux, des écoles.
Exactement, imagine. Pour par la suite lancer cette faute-là sur Israël en disant « Hey, ils ont attaqué des hôpitaux, ils ont attaqué des écoles. » Alors, c'est clairement une stratégie de la part du Hamas.
On s'entend-tu que l'éthique et la morale du côté du Hamas, c'est... Moi, je les qualifie comme étant pire qu'un autre pays qui s'attaque, mais ça devait tellement être déchirant de savoir que t'attaques un hôpital à ce moment-là ou une école, sachant qu'il y a des civils, mais que tu n'as pas le choix parce que sinon tu les laisses gagner. Tout ce qui est guerre fait de cette façon froide et inhumaine-là, il doit y avoir des gens qui psychologiquement là, sont dévastés pour le reste de leur jour. Imagine, tu as un soldat qui doit attaquer un hôpital ou une école, sachant qu'il va aller tuer plein d'enfants. Il y a quelque chose qui est démesuré dans la guerre qu'on voit actuellement, qui me rappelle les années dégueulasse là, de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, puis même qui rappelle le conflit au Rwanda aussi.
Ah, ça, écoute, on est ailleurs.
Les casques
là.
Bleus ont été complètement meurtris mentalement.
Et dépassés.
Oui, j'ai déjà parlé avec un militaire qui avait été obligé de tuer un enfant militaire parce que sinon, c'est lui qui est passé en Afghanistan.
Mais
il n'est plus jamais redevenu le même. Tu reviens chez vous, tu as tes deux kids.
Pis c'était toi ou lui à ce moment-là.
Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il dit, c'est un réflexe. Ben, il dit d'un, t'es entraîné pour ça, fait que oups, tu vois l'arme pointer sur toi.
Mais non.
Puis tu sais, quand je suis rentré à la maison, ma fille de 9 ans, mon gars de 7 ans, puis moi je viens d'en tuer un peut-être de 11 ans, tu sais, il dit j'ai plus jamais le cas de retourner en mission.
Heureusement, on a déstigmatisé beaucoup les soins pour la santé mentale auprès des militaires, auprès des services d'urgence, auprès de... Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis j'avais lu un livre dans le temps qui s'appelle « Moi, soldat ». Puis si vous n'aimez pas lire, là, ça reste vraiment facile parce que c'est des portraits. Donc, on prend, mettons, Jeff Fortin, puis c'est quelques pages sur ton histoire à toi de militaire. C'est les éditions de l'Homme qui avaient fait ça. C'est encore d'actualité. Puis on était dans ce changement-là de cap par rapport à la santé mentale. Je vous le conseille. C'est fascinant.
Oui. Puis souvent, ces blessures-là sont créées, mais tu es dans un laps de temps quand même éloigné de l'événement. Mm-hmm. Tu sais, ce militaire-là avec qui j'avais parlé, c'était ça. Moi, après ça, j'ai continué ma mission, puis go, tu sais, ça avait été fait, t'es sous l'adrénaline, tu es là pour encore 2 mois. Et c'est quand je suis arrivé à la maison que j'ai fait, hey my God, j'ai vraiment fait ça. Puis là, ben, c'est là que tu t'es
formé. Puis envoyer tes enfants, puis tout ça.
Ben oui.
Non, non, c'est très particulier. Très particulier. Dire qu'en 2024, on est encore dans des conflits qui brassent comme ça. Mm-hmm. Puis on est loin d'en avoir fini avec ça. Fragmentation totale en ce moment. Niveau géopolitique là, dans le monde, là, si vous mettez à lire, vous allez voir que le monde va changer dans les prochaines années. Puis on n'en parle pas assez.
Ouais.
Mais qui sera la puissance mondiale? Puis là, tu as tout le temps le niveau économique, tu as tout le temps le niveau social, tu as tout le temps le niveau de pouvoir X. Mm-hmm. Puis tu sais, on jasait cette semaine, les trois ensemble, sur les Olympiques. En ce moment, pour les médailles, c'est intéressant de voir que les États-Unis sont encore à la tête en termes de nombre. Là. On est à une trentaine pour les États-Unis. Puis je me demande si, par certaines phrases qui ont encore un manque de puissance hein, dans les conversations diplomatiques à travers les dernières années, une image qui a été entachée, veut pas, les Chinois qui sont allés espionner aux États-Unis, qui étaient dans l'hydroélectricité depuis des années puis ils s'étaient pas rendus compte de ça. Il y a comme une course au pouvoir, puis probablement, honnêtement, là, que ça se répercute aux Jeux olympiques, sans qu'on le sache. Là, Deuxième Guerre mondiale, aller là-dessus, c'est super pertinent à quel point, ben, justement, c'était une course aussi à la compétitivité et non nécessairement sportive, mais plus gouvernementale.
Sous Adolf Hitler, on a reçu les Jeux olympiques en Allemagne.
Ben pourquoi? T'sais,
ben
pour
oui.
Avoir l'air du pays en puissance dans l'accueil de ci et de ça. On a eu un grand débat par rapport à ce qu'on accepte les athlètes russes. Est-ce que c'est un portrait qu'on veut justement porter sur les Jeux olympiques de Paris 2024? En même temps, on fait une dissociation entre un athlète et les choix du pays.
Tu sais, tout à l'heure, David Rioux nous a parlé des Jeux d'hiver à Sochi, où il a fallu construire une ville hivernale parce qu'il n'y avait pas d'hiver. Bien ça, la Russie voulait montrer sa puissance avec ça. Regardez qu'est-ce qu'on est capable de faire. On est capable d'accueillir des Jeux olympiques d'hiver dans une place qui n'est même pas l'hiver. Puis regardez tout ce qu'on construit, regardez la richesse qu'on a.
Et pourtant, ça crée des problèmes sociétaux immenses. Ça crée de la pauvreté. Ça crée... Non, c'était pas drôle, là. Sochi. Il y a encore des impacts de tout ça.
Clairement.
On pourra en parler avec David Rioux un jour, si jamais. Mais c'est ça. Les États-Unis sont en tête. 30 médailles au total. Ils ne sont pas en tête des médailles d'or.
C'est la Chine.
C'est la Chine. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ben là, il faut que je parte en pause parce que là, je...
Parce que tu vas te mettre à parler de la Chine trop longtemps.
On est encore là à 18h30. mais ça va être.
Elle s'est arrêtée. C'est malade. Elle s'est arrêtée.
Elle s'est arrêtée en mentionnant le mot Chine. Je pensais pas que ça pouvait arriver.
Merci, les gars.
C'est le piton.
The Killers, All These Things That I've Done. Thomas Gauthier, Jeff Fortin, moi-même, Pascal Cévé.